Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission présentée par Eladji Makalou. Avec nous, on va débattre bien évidemment du football. Avec nous, on a eu ça faisait un petit moment qu'il manquait Lucas autour de la table. Bambolé aussi, ça fait un petit moment que tu nous as manqué. Aujourd'hui, on va parler de football, de Ligue 1. Maintenant, on a le classement final. On va bien évidemment parler de tout ce qu'on avait. En premier lieu, ce qu'on avait prédit, plus ou moins, et la finalité de tout ce championnat. Comment ça va, Lucas ?
Ça va, très content d'être de retour.
Très content, nous aussi très content de t'accueillir, et je pense que les auditeurs et auditrices sont très contents aussi de t'entendre. Toi, on n'a pas pu t'entendre, t'exprimer en tout cas sur toute la campagne du Paris Saint-Germain. Je suppose que tu es super content, hein, et qu'on, de toute façon, les matchs restent à venir et on espère te voir dans les prochaines émissions. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça et du sacre aussi de Ligue 1, tu peux nous en parler ?
Ouais, on peut revenir sur ça rapidement. Déjà, je suis content que Paris ait gagné les deux matchs. Aller-retour contre Arsenal, ça me semblait important. On voit qu'au retour, ça a tremblé, notamment au début. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment le feu, mais ils ont réussi à vaincre leurs démons. Et je pense qu'il n'y a qu'une une victoire finale qui permettra de les enlever à tout jamais. Donc j'espère que le 31 mai, on aura une très belle finale avec la victoire du PSG. Et ouais, le sacre de ce week-end, content de voir que les joueurs ont l'air encore, après les petits jours de repos qu'ils ont eu, de voir que les joueurs sont encore impliqués. On a vu un gros Nuno Mendes qui avait l'air inarrêtable sur son côté. On voit Kvara qui met un doublé. Globalement, j'ai trouvé l'équipe concernée, donc super content de la tête fin de saison et confiant pour la suite.
Merci Lucas. On va bien évidemment parler aussi de Marseille, hein, de Greenwood. C'est sûr que ça va faire débat. Hein. Greenwood qui a tout simplement est meilleur buteur, co-meilleur buteur avec Ousmane Dembélé. Mais le trophée ira à Ousmane Dembélé pour cause de moins de pénalty marqués pour Ousmane Dembélé. Du coup, ça sera lui qui remportera le titre. Comment ça va Alexandre ?
Ça va super, et toi ?
Ça va, t'as passé une bonne semaine de football ?
Ouais, ça va.
Bonne semaine, le titre du Barça, de Barça.
Ouais, c'est une formalité finalement.
C'est une formalité, malgré la défaite,
Malgré la défaite, on va pas revenir dessus, parce que vous en avez parlé la semaine dernière, mais finalement...
Non, la défaite là, dernièrement.
Ah, contre Villarreal.
Oui, contre Villarreal. On est passé à autre chose. Ah, toi, t'es encore sur l'Inter ? Ah, désolé.
Non, moi je trouve qu'on a fait une super saison et que tout le monde sait à quel point le FC Barcelone avait manqué au football. Et je pense que la mission est accomplie pour Hansi Flick, donc tranquille, tout va bien.
Bambori, toi, je suppose que tu es content aussi d'entendre des éloges sur Hansi. Hansi, on sait qu'il était du côté du Bayern et c'est un Allemand. Toi, tu apprécies vraiment cette Bundesliga aussi. Vous avez eu un titre à fêter hein, cette année, en tout cas, la Bundesliga. Harry Kane, premier titre. Qu'est-ce que t'as passé une bonne semaine de football, je suppose ?
Oui, j'ai passé une très bonne semaine de foot avec le Bayern qui gagne sur le dernier match 4-0 encore, même si on est déjà champion. On a récupéré le titre, c'était le premier titre à Harry Kane et on l'a bien fêté. Harry Kane, beaucoup pensaient que c'était un chat noir, dont toi.
Franchement, quand même. Toi-même, tu l'as vu, je pense, dès la saison dernière, il est arrivé encore avec son chat noir, mais il faut vraiment y aller quand même. T'arrives première saison au Bayern, ils font que de gagner le titre, et toi, tu perds le titre, tu gagnes pas la Super Coupe que tu peux gagner en même pas deux jours, tu gagnes pas la Coupe d'Allemagne. Bambori, quand même. Je pense qu'il y avait de quoi dire que c'était un chat noir. Et même là, tu vois, ils gagnent un seul titre. Ouais. Parce que non, d'habitude, le Bayern, ils font des triplés, ils prennent tout.
C'est le retour. On y va petit à petit.
C'est le retour. Et on a pu voir aussi la dernière de Thomas Müller.
Oui, la dernière de Thomas Müller. Il lui reste un peu plus de 3 matchs à jouer à la Coupe du Monde des clubs, mais en terre allemande, c'est fini. C'est une légende qui s'en va.
Une légende du football, hein. Peut-on dire que c'est une légende du football, Thomas Müller ? Alexandre, il...
C'est intéressant, mais... c'est un débat intéressant, mais je sais pas si je le mets vraiment en légende, parce qu'en fait, il y a tellement de légendes. À ce moment-là, tu mets tout le monde en légende.
Après, peut-être légende du Bayern.
Non, ça c'est sûr que c'est une légende du Bayern.
Oui, c'est sûr que c'est une légende du
Bayern. Avec le nombre, mais avec le nombre de trophées qu'il a gagné, et bah, même, tu... par exemple, je sais pas, un mec comme Totti, vous allez le mettre comme légende aujourd'hui.
Bien sûr.
Müller, moi je le vois. Oui, du football. Du football. Müller, je le mets dans la même case que Totti.
C'est très,
en termes de légende.
C'est très très différent. Rien que pour l'œil, pour le plaisir que tu as allé voir, c'est très différent.
Totti, Müller tous les jours en légende. Bah, ça, c'est...
Mais moi, attention, les joueurs qui sont champions du monde et qui ont été protagonistes pour un championnat du monde, pour moi, c'est automatiquement des légendes. J'ai pas un truc restrictif à dire qu'il doit être que 5-6 et Pelé, Maradona, CR7. Donc pour moi, à partir du moment où tu as fait des grandes choses, que tu as mis plusieurs centaines de.
Thomas Müller fait.
Légende,
non,
quoi.
Non, ouais.
Ah, Reus.
Non, de Dortmund. 2014, il est blessé déjà.
De Dortmund, peut-être. C'est une légende de Dortmund.
C'est un joueur ultra marquant du championnat.
Ouais, c'est ça, c'est tout. Ça, oui, ça s'arrête là. Ils n'ont pas les mêmes. Non, non plus.
C'est une légende de Dortmund, c'est tout.
Ouais, c'est tout. Thomas Müller.
Je suis pas d'accord avec le fait que les gens qui ont gagné une Coupe du Monde sont des légendes.
Non, j'ai dit protagoniste. Ça veut dire les 3-4 meilleurs joueurs, plus ce qu'ils ont fait en club après. Pour moi, c'est des choses qui forment une légende. Après, Thomas Müller, il a 15 ans. Super comment dire, régulier au Bayern, des titres en veux-tu en voilà, il est protagoniste sur la Ligue des Champions aussi. Pour moi, il n'y a rien qui peut enlever le titre de légende à Thomas Müller.
Je pense aussi, hein, Thomas Müller, et il ne faut pas oublier, hein, il a quand même participé à deux humiliations fortes qu'il y a eu dans le football dernièrement, notamment le 7-1 face au Brésil et le 8-2 face au Barça. C'est quand même des choses, et en dehors de tout ça, que ce soit les deux Ligues des Champions, les trophées qu'il a gagnés, franchement, ça serait dur de ne pas le mettre dans la légende quand même. Ouais, c'est pas tout le monde, même dans son armoire à trophées et dans son nombre de passes décisives et dans son nombre de buts, il est à peu près à 250 sur les deux. Un peu plus même.
Ouais, c'est ça, je pense.
Oui, il y a l'aspect esthétique. C'est sûr, mais c'est un autre. Ça, c'est un autre truc, quoi. Tu peux dire je ne l'aime pas ou c'est pas mon style de jeu, mais ça reste quand même.
Mais
ça reste quand
même. Voilà. Joueur,
mais c'est juste un mec qui a de la hargne aussi. Tu vois, poignant sur le terrain, leadership.
Vraiment. Il représentait la mentalité allemande et la mentalité du Bayern Munich toutes ces années.
Voilà, un joueur.
Après, son style de jeu à part aussi faisait que beaucoup l'aimaient. Hein. Esthétique, mais c'était un gars qui avait la dalle. Et malgré ça, il arrivait malgré à mettre ses buts. Et tu voyais que même quand il marquait, il était quand même malade.
Ah non, mais
et puis des buts importants, Ligue des Champions, on voit sur des quarts, sur des demi. Il a fièrement défendu le maillot du Bayern, Thomas Müller.
Et de l'Allemagne. Merci, on va introduire aussi Jason. Comment ça va, Jason ?
Ça va et toi, là ?
Ça va, super. Jason, bien évidemment, on va parler de l'Inter. Hein. L'Inter qui a loupé le coche ce week-end.
Ah,
qui se sont qualifiés derrière, mais là, en tout cas, ils ont loupé le coche dernièrement. On dirait que la Sudetto, c'est du tout droit pour Naples. Naples qui savent qu'à domicile, ils devront pousser et jouer contre une équipe de Cagliari qui ont assuré le maintien. Ça risque d'être compliqué.
Là, c'était,
c'était l'occasion rêvée.
C'était l'occasion de reprendre la tête de la Serie A. Et l'Inter.
En sachant que Naples se sont loupés deux fois. Ils se sont loupés deux fois, Naples.
Deux fois.
Ils ont grillé leur première cartouche. Et là, la deuxième, en sachant
on
que.
On va dire encore la première cartouche, c'est parce que l'Inter jouait la Ligue des Champions en parallèle. Donc l'effectif tournait.
Non, Naples, ils ont loupé leur cartouche. Ils ont perdu.
Ils avaient fait un nul avant. Ils avaient 3 points avant.
Ils avaient fait un nul avant.
Ça fait 1 point en 2 journées.
Et l'Inter, c'est une faute professionnelle.
C'est le bon vieux Pedro qui a vengé Barça.
Exactement. Il a 36 ans, je crois.
Ouais.
C'est pas possible. En plus, c'est un pénalty en toute fin de match. Mais je pense qu'au but de Dumfries, il se voyait déjà champion. Si tu vois la célébration sur le but de Dumfries, ça y est, c'était la libération.
Ouais, mais en plus, ils ne peuvent pas se voir champion parce qu'ils savent que si Naples gagne de l'autre côté, Naples sont toujours devant eux.
Non, on était devant.
Oui,
avec le nul.
Oui, avec le nul. Mais
si Naples marque,
mais à ce moment-là, il marque, c'est courant le match.
Sur l'instant, quand tu mènes 2-1, les gens ils sont au courant du résultat de Naples.
Tu vois que tu repasses au classement.
Voilà, tu repasses au classement. Là, le public, il suivait les deux matchs, à mon avis, en multiplex.
Avec une fin de match fou. Tout simplement fou. Hein. On a pu voir un penalty pour. J'étais avec Bambori, on regardait le match. J'étais là, penalty côté Inter. Il me dit, peut-être il y a un penalty pour la Lazio. De l'autre côté, il y a Naples. L'arbitre, il siffle aussi, peut-être penalty pour Naples. Je suis en train de regarder l'action. De l'autre côté, il confirme le penalty. On se dit, Naples, ils vont confirmer, ils ne vont pas confirmer. Et Naples sont au courant de tout ça. Parce que tu entends les supporters derrière aussi qui crient penalty, ils savent, côté Inter. Et nous, on est là, on est en train de regarder le match, on est comme des fous, tu vois. C'était fou.
Mais en tout cas, ils ont intérêt de saisir leur dernière chance parce que je sens que le stress commence à leur envahir et qu'ils ont du mal à aller chercher des résultats.
Franchement, moi, je l'ai annoncé depuis très longtemps, je voyais Naples prendre la Sudetto. Moi, pour moi, du Antonio Conte avec Lukaku, tout simplement en Serie A, et avec une bonne équipe construite plus ou moins autour. En plus, là, avec des rumeurs comme quoi Kevin De Bruyne va arriver pour la saison prochaine. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, Antonio Conte avec Lukaku, Serie A.
Il a fait le taf.
Et en plus, après, que ça à jouer.
Ça a aidé. L'Inter les a beaucoup aidés, le fait que leur parcours ait duré. Parce que si le parcours n'aurait pas duré, ça n'aurait été pas aussi chaud entre les deux équipes.
C'est sûr, c'est
possible. Parce que l'Inter ont laissé beaucoup.
Mais l'Inter n'ont pas battu Naples aussi.
Ah non, mais même sans compter la confrontation directe.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Serie A, ça compte la confrontation directe. Oui, oui. Là, en cas de match nul, comme ils ont fait deux matchs nuls, en cas d'égalité...
Non, ça, ils l'ont enlevé. C'est fini, maintenant, il faut une finale.
C'est
une
finale. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ah, okay. En cas de finale, s'ils arrivent à égalité de points, ils se disputeront un match pour la Scudetto.
Je trouve ça nul.
C'est bien ça. Voilà.
Oh, moi, je trouve ça bien. Ça change.
Moi, je trouve ça nul, personne.
Ça change des confrontations directes. Franchement, c'est bien. Ça redonne
Que la différence de but ne compte plus à rien. Quoi.
Oui, en fait.
Si, sur les autres matchs.
Non, parce que dans tous les cas...
C'est que sur les, je crois, le relégué et le champion. Si c'est pour d'autres... comment dire,
oui,
si
pour
c'est
sur les d'autres européennes et tout.
Ça reste. Bon, ouais. Et d'ailleurs, pour savoir qui accueillera cette fameuse finale, ça aurait été du coup à Milan, puisque l'Inter avait une meilleure différence de but que Naples. Ça sert à ça.
Dans tous les cas, avant cette réforme-là, la différence de but, elle ne servait à rien. C'était confrontation directe.
Ah, c'était du goal average particulier.
Ouais. Donc, dans tous les cas, la différence de but, elle ne servait à rien.
Oui, mais confrontation directe. Oui, mais là, par exemple, dans ce cas-là, où il y a 1-1-1-1, à l'aller comme au retour.
Ah, ben là, c'est les buts qui jouent.
C'est pour ça que ça. Voilà. Mais voilà, on a parlé de tous les championnats, hein, tout simplement. Désolé, hein, mais on va reprendre le cours. Hein. On va parler de la Ligue 1. On va reprendre avec Mason Greenwood, hein, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Hein, lui qui a loupé un pénalty aussi. Il aurait peut-être pu passer devant Ousmane Dembélé. Je l'ai posé la question la semaine dernière. Je pense qu'il n'y avait que Jason autour de la table. La semaine dernière, j'ai posé la question et on m'a tous répondu. Plus ou moins, en tout cas, si, je pense qu'on m'a tous répondu que c'était normal que Greenwood ne faisait pas partie du type 11 de la Ligue 1 et mettre Désiré Doué devant. On ne parle pas de talent, on ne parle pas de la Ligue des Champions, on parle réellement de la Ligue 1, de ce qu'ils ont produit, des stats, de leur importance. Je ne sais pas.
Moi, Jason, je pense que Greenwood méritait d'être dans le 11 de Ligue 1 devant Désiré Doué parce qu'en fait, Désiré Doué, ce que les gens y retiennent, c'est surtout la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a fait en Ligue des Champions et ce qu'il a fait en deuxième partie de saison de championnat. Mais la première partie de saison, Désiré Doué ne fait pas partie des plans, en tout cas en tant que titulaire du Paris Saint-Germain. Sa fulgurance est arrivée petit à petit, on va dire crescendo, au cours de la saison. Mais ce n'est pas sur la saison entière, en fait. Tout le monde se base sur la deuxième partie de saison en mélangeant la Ligue des Champions. Parce que certes, il a choqué. Mais si on prend que la saison Ligue 1, Greenwood, malgré ses hauts et ses bas, il mérite d'être dans le 11.
Moi, je suis pas d'accord. Justement, quand j'ai vu le 11 type de UNFP, c'était la première année, je trouve, depuis au moins 4, 5, 6 ans, enfin ouais, on va dire 4, 5 ans, pour moi, il n'y a aucun scandale, en fait. Je trouve qu'elle est ultra cohérente, l'équipe. Et c'est pas non plus un scandale de mettre Désiré Doué, il est meilleur espoir. Il fait, comme tu as dit, une très bonne deuxième partie de saison. Peut-être qu'il y a le billet Champions League dans ta tête. Enfin, dans la tête des gens, mais je veux dire, je trouve que c'est un joueur, on parlait d'esthétique tout à l'heure, quand tu le regardes, ça te fait plaisir de voir un joueur comme ça, il apporte, c'est un profil différent, il apporte des choses que tu vois pas forcément ailleurs, etc. Et je trouve qu'il faut récompenser sa deuxième partie de saison. Après, ça aurait pas été un scandale non plus de mettre Greenwood, ça c'est sûr, mais comme tu as dit, Greenwood, il a eu des hauts, il est à 21 buts, etc. Mais il a eu beaucoup de bas quand même.
Ça veut dire quand même que tu mets pas le deuxième meilleur buteur à 21 buts dans ton 11 type quand même.
Ah, le deuxième meilleur buteur, le co-meilleur buteur.
Moi ça me choque pas plus que ça en vérité. Hein. Franchement, ça me choque pas plus que ça.
Moi je pense que ça serait pas Greenwood, le nom, qui dérange. Je pense que ça serait pas Greenwood, ça serait n'importe quel joueur. Je pense qu'il aurait fait partie du top.
Je pense que ça a joué aussi.
Après, ça, mais pour moi, je pense que t'as parlé, mais c'est important, ça, pour moi, l'aspect extrasportif, personnellement, je trouve.
Bah là, c'est sur la saison, il a pas fait parler de lui sur le côté extrasportif. Ouais, moi, pourtant, j'aime pas vraiment Greenwood, hein, vraiment. J'ai pas d'affect particulier sur lui. Mais
non,
vraiment,
on peut ne pas aimer le joueur, mais là, on se parle que des stats et de ce qu'il a produit sur le terrain.
Ah, puis même une saison, c'est 34 journées là en Ligue 1.
Mais après, on commence en décembre, comme s'il avait fait une saison moyenne. En vrai, d'où il a fait quand même une
non, mais non, il a fait une...
non,
il commence
en décembre.
Ça,
il commence en décembre.
Excusez-moi, septembre, octobre, novembre, il fait rien du tout.
Non, mais absolument rien.
Énorme. D'accord, mais dès le mois d'août, on voit que c'est quasiment des meilleurs. Il montre
même s'il a eu un
mois d'août,
c'est le leader de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison.
D'accord, Rabiot, pour moi, il fait une meilleure saison.
Mais Rabiot, il arrive à la trêve.
Pour moi, les deux méritent.
Rabiot, il arrive à la trêve, Rabiot.
Oui, mais
non, il arrive en novembre.
Oui, mais il est prêt.
Il est prêt tout de suite.
Non, il n'est pas prêt tout de suite. Il vient, il fait quelques entrées de match.
Il joue quand même, il joue quand même pas mal de matchs pendant la première partie de saison.
En début, il n'est pas bon.
Non,
au début,
il fait des bons matchs d'adaptation. On va dire que son influence à Rabiot, elle rentre vraiment
en deuxième partie de saison.
Greenwood, il a un trou énorme. C'est pas parce que là, il fait une super fin de saison. Pas de soucis, il finit en bombe qu'il faut oublier.
Mais si tu reprends rien que, par exemple, la première partie de saison, compte le nombre de matchs qu'il fait gagner à l'Olympique de Marseille. Si tu enlèves Greenwood sur tous ses exploits, Marseille, ils sont pas ce total de points.
Alors que Doué, Paris est champion sans Doué.
Exactement. Ça n'a pas la même influence.
Et tu mets Doué à la place de Greenwood, Marseille
ne fait pas. En fait, à vous écouter, on dirait que c'est un scandale.
Oui, ça, pour moi, personnellement, je dis pas un scandale, j'irai pas jusque-là, mais pour moi, c'est une injustice. Voilà. Pour moi, c'est une injustice. Voilà, faut mettre le mot. On n'est pas à l'extrême non plus, mais pour moi, c'est un
super joueur de Ligue 1.
Je suis désolé, comme Greenwood, c'est un super joueur de Ligue 1.
Ah ouais, mais il faut, comme tu as dit, hein, faut pas oublier qu'il a un trou d'air. Et Désiré Doué,
un trou d'air, mais quelqu'un qui a un trou d'air et quelqu'un qui n'a rien. Parce que Désiré Doué, il avait rien. Oui, mais Désiré Doué aussi, c'est énorme, puisque Désiré Doué, c'est aussi grand. Il n'avait rien. Désiré Doué pendant plusieurs mois.
Après janvier, il a gagné sa place en tant que titulaire.
Non, même pas après janvier. C'était même pas titulaire. Il rentrait, il faisait des bons matchs. C'était tout. Janvier, février, on est au mois de avril. Ça fait un mois de mai, 4-5 mois.
Franchement,
tout le reste.
Si on se remet toute la saison de Greenwood, en plus, il ne faut pas oublier que, bon, après, on peut me sortir ce qu'on veut, mais il marque quand même beaucoup de pénalties. Et si on retrace toute la saison, un tiers de ses buts.
Oui, un tiers de ses buts. Non, mais il faut les mettre quand même les pénalties. Il faut les mettre, les pénalties. Tu peux pas maintenant dire le joueur il a mis autant de buts, mais il a mis des pénalties. Les pénalties, il faut les mettre. On voit combien de joueurs louper leurs pénalties.
Ça reste quand même plus simple de marquer un but à 11 mètres que de marquer un but dans le jeu.
Il en a mis beaucoup en dehors de la surface.
Il en a mis beaucoup dans le jeu.
Il a marqué un tiers de ses buts sur pénalty. Et moi.
Mais même en enlevant tous les pénalties, il a plus de buts que Désiré Doué, au moins 2-3 fois plus de buts que Désiré Doué.
Bah c'est normal, déjà il joue pas.
Et plus de passes décisives aussi.
Mais c'est normal.
Je sais pas, non, désolé Alexandre, mais là.
De toute façon, pour moi, en vrai, le débat.
Même pas, il a moins de 19 ans.
Non, c'est en 2005, il aura 20 ans dans l'année, il a 19 ans encore. Mais pour moi, de toute façon, un mec qui est pas titulaire toute l'année dans son club, il peut pas être dans l'équipe type. Pour moi, désolé, il compète même pas.
Je suis d'accord.
Une équipe type, il faut le marquer de A à Z, ça se mérite à la régularité. C'est pas une compétition avec des éliminations directes, c'est une course de fond, un championnat. Et pour moi, il faut être là de la première à la dernière.
D'accord, le mec, il a gagné sa place.
Oui, mais il est devenu titulaire. L'an prochain, il est meilleur espoir, c'est tout à fait mérité. L'an prochain, il pourra voir s'il a sa place. Mais pour moi, pour l'équipe type, c'était prématuré cette année.
Non, puis c'est pas un scandale de mettre le meilleur espoir dans 11 types.
S'il est moins fort que les meilleurs joueurs, si.
Ouais. T'as pas entendu t'exprimer, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, Greenwood, je l'aurais mis dans le 11. Hein.
Ah ouais?
Greenwood, je l'aurais mis dans le 11. C'est le meilleur buteur, égalité avec Dembélé. Et il est. C'est lui qui porte en quelque sorte Marseille, qui sont deuxième du classement. Donc.
On peut dire avec Rabiot aussi.
Oui, avec Rabiot aussi, mais pour moi, Greenwood, il doit être dans le 11.
Surtout le début de saison, parce que Marseille, ils finissent pas très bien après la saison, mais en début de saison, c'est là où ils prennent une large avance, et à ce moment-là, Greenwood est impérial.
Mais c'est surtout qu'il met des buts clés.
Ouais, c'est ça.
Il met des buts clés. Marseille
n'ont pas de solution, c'est très dur, et là, Greenwood va te sortir. Exactement. C'est un génie. Pour moi, c'est un génie du football.
Il a que des fulgurances.
C'est un génie du football.
Il a des fulgurances.
Mbappé, il joue beaucoup sur les fulgurances aussi. C'est pas forcément une critique. Une fulgurance américaine, le deuxième but qu'il met hier, il est extraordinaire. Il y a deux semaines, quand il marque le but de loin, là, alors qu'ils étaient en galère à faire match nul, enfin, ça fait quand même, comme tu dis, pas mal de buts décisifs. Pour moi, Greenwood, il mérite totalement sa place. Après, dans tous les cas, ça restera une des attractions de la saison. Et s'il le reste, on verra l'an prochain Champions League de quel joueur c'est.
C'est ça, merci. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé du classement de la Ligue 1? Le classement final, Lyon, qui vont peut-être jouer la Ligue Conférence, sûr, et peut-être la Ligue Europa si Paris s'impose face à Reims en finale de Coupe de France.
Lyon s'en sort bien déjà, parce que franchement, je ne voyais pas Strasbourg tomber. Strasbourg, je pense qu'ils ont fêté leur victoire bien avant d'avoir joué le match, parce que j'ai vu quelques vidéos qu'on fuitait avant le match, ça s'amusait déjà devant les caméras et tout ça, donc... même si c'est leur mood habituel, mais apparemment, la concentration, c'est de A à Z. Et le Havre, ils sont venus avec les dents longues et ils ont fait le travail.
Le Havre jouait le maintien aussi.
Exactement.
Et il y avait aussi ce petit souci, on peut dire, entre guillemets, c'était aussi Emega, qui n'a pas joué ces deux derniers matchs, blessé apparemment.
Ah, d'accord.
Mais depuis, en tout cas, ça compte énormément, un joueur comme Emega, parce que même quand il ne marque pas, tu vois, ça...
Oui, il apporte dans le jeu, il pèse sur les défenses, et c'est un joueur qui épuise et qui peut marquer à tout moment. Mais c'est vrai que ces deux derniers matchs, il leur a manqué parce que même dans tous les cas, sur le dernier match, je crois, il a mis titulaire Sekou Mara. Et le pauvre, il n'a pas beaucoup joué cette saison. Et surtout qu'Emega, c'est un joueur quasiment qui joue 90 minutes. Donc il a mangé que des miettes et tu le mets sur un match décisif comme ça en fin de championnat. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ?
C'est pas le même style de jeu. En plus, il prend beaucoup la profondeur. Emega, c'est un joueur sur... Et puis c'est la pointe, c'était un petit peu le référent offensif de son équipe cette année, avec la Nazi derrière un petit peu, mais du coup ouais, je pense qu'il aura beaucoup manqué, autant son jeu même que l'organisation tactique, et ça s'est vu après Le Havre, bravo à eux, franchement ils nous ont offert un finish extraordinaire
avec une Panenka
d'Abdoulaye Touré à la 90+9,
ouais, non, c'était des penalties.
Il en a mis 7 ou 8 je crois cette année, c'est incroyable, et franchement dans le chapeau au Havre, ils ont tout donné, on voit que en fait rien n'était fini. C'est un peu ce qu'on aime aussi avec le championnat italien sur la dernière journée, c'est que tout est possible. Là, en Ligue 1, on l'a vu. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que Nice jouera la Ligue des Champions. Je trouve que c'est dommage pour le football français, sans rien enlever au mérite des Niçois. Hein, mais quand tu vois ce qu'ils ont montré en Coupe d'Europe l'an dernier, dans le fond de jeu cette année, et l'ambition qu'ils ont globalement, même avec un propriétaire qui change, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va aller. Je suis un peu déçu que ce soit ce projet-là qui soit entre guillemets récompensé. J'aurais préféré voir Lille ou Lyon en Ligue des Champions, mais bon, ils ont mérité.
Ils ont mérité, en tout cas du moins de l'autre côté, ils n'ont pas mérité puisqu'ils n'ont pas réussi. Pour la dernière de Lacazette, ils se sont quand même imposés 2-0. Lacazette qui a été auteur d'un doublé et peut-être aussi la dernière de Cherki. Qu'est-ce que tu en as pensé, Alexandre ?
Franchement, moi j'étais très content pour Lacazette parce que bon, c'est un joueur que j'aime bien à l'origine. Et je trouve que bah, il part de la meilleure des manières. Plus en parallèle, il y a chez les filles Eugénie Le Sommer qui part aussi, donc franchement c'est deux gros noms du football français et de Lyon qui partent en même temps. Et puis Cherki après qui part, je pense que j'espère pour lui et j'ai envie de penser que c'est le bon moment pour lui de partir, mais après faut pas accepter n'importe quelle offre, je pense, parce que tous les championnats ne sont pas adaptés pour lui et tous les projets sportifs et de clubs ne sont pas adaptés pour lui, donc faut vraiment voir quelles seront les offres et vers quelle direction il va orienter sa carrière. Et sinon, après, j'étais un peu déçu de Saint-Etienne. Enfin, déçu, triste, on va dire, parce que je trouve ça dommage de faire l'ascenseur comme ça. Surtout qu'à l'origine, quand le club monte en Ligue 2 et qu'ils se font racheter, qu'ils se débarrassent de Kayaso Romeyer, là, le duo. Le duo fantasque.
Les deux boulets, là.
Les deux boulets de Saint-Etienne, qu'ils arrivent enfin à vendre, etc. Puis après, il y a des promesses, il y a la montée, etc., qui se fait un petit peu sur le fil. Je trouve ça dommage parce qu'en plus, je pense que c'était pas non plus la pire équipe de Ligue 1.
Après, le problème, c'est la défense.
Voilà, 77 buts encaissés. Et ça, c'est un vrai problème. 77 buts encaissés, c'est un vrai problème. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais au-delà de ça, même s'ils avaient gagné, ils auraient été.
Parce que Le Havre avait gagné dans tout.
Voilà, Le Havre, et en plus, en différence de buts, ils sont quand même en dessous de Reims. Ouais. Mais je trouve que même dans le match, en fait. Je comprends pas comment tu peux perdre contre un Toulouse qui n'a rien à jouer.
Exactement. Alors Toulouse, c'était l'équipe qui avait du mal à gagner.
Ouais, c'est ça.
À chaque journée. Et là, j'ai l'impression que c'était Toulouse qui jouait le maintien.
Mais oui. Et c'est surprenant. Pourtant, à un moment, ils arrivent à réduire l'écart et tu te dis, ils vont emballer le match, le chaudron, ils attendaient que ça et tout. Mais finalement, ils n'ont pas réussi.
Même à 3-2, non, ils n'ont pas réussi.
Ouais, ils n'ont pas réussi. Et je trouve ça dommage. Après, globalement, je trouve qu'on a eu des petites équipes comparé aux saisons précédentes, des petites équipes qui ont, je trouve, essayé de produire du jeu. On pense à Auxerre, au Havre, à Strasbourg qui finit dans le haut du classement. C'est des équipes qui n'ont pas beaucoup de budget, mais qui... Bon, Strasbourg, c'est un peu à part, mais des équipes qui n'ont pas beaucoup de budget, mais qui, je trouve, ont réussi à produire du jeu. Donc, pour une fois, je suis content du jeu proposé par les entraîneurs de Ligue 1, globalement.
Merci, Alexandre. Bambori, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Tout d'abord, déjà, moi j'espérais voir Lille en Ligue des Champions parce que, quand même, ils avaient fait une bonne saison. Nice, ils étaient en Ligue Europa, ils ont galéré. Là, ils vont aller en Ligue des Champions. Je me demande ce que ça va être. Et ensuite, pour Strasbourg, je suis un peu triste pour eux parce que, quand même, ils ont bien fini la saison. Ils ont bien fini la saison. Ils avaient une série d'invincibilité d'à peu près 10, 13 matchs à peu près. Ouais. Et sur les deux derniers matchs, ils ont chuté. Et ça leur a coûté les places européennes. Donc j'espère pour eux que le PSG, ils gagneront la Coupe de France pour qu'ils jouent la Conference League, même si c'est pas une compétition bien malade, mais bon.
Après, à l'échelle de Strasbourg, c'est déjà bien.
Ouais, ça serait déjà ça. Jouer l'Europe, déjà, tu vois. Ça serait pas mal. Jouer l'Europe, ça serait déjà ça. Découvrir de nouveaux stades, aller à l'étranger et surtout, on va dire, rénover un peu le blason de la France avec Nice qui l'ont un peu souillé.
Après, il faut voir s'ils vont pas se faire dépouiller cet été.
Jonathan David a annoncé qu'il allait partir déjà.
Non, je parlais de Strasbourg.
Oui.
Emega, il y a Chelsea qui
apparemment, Chelsea ont des touches.
Quel mauvais choix de carrière.
André Santos.
C'est André Santos, surtout qu'ils vont pas réussir à garder.
Il appartient à Chelsea, en vrai.
Il est prêté par Chelsea, André Santos.
S'ils vont lui prêter une deuxième saison pour qu'il s'aguerrisse en Coupe d'Europe. Non, mais après, ils ont des bons joueurs. Ils ont, on disait tout à l'heure, c'est Kumara, Dylan Bakwa, c'est un bon joueur. Nanasi, je vais pas partir. Et même Barco, qui arrive de près de Brighton. Je ne sais pas s'ils vont réussir à
les garder,
hein. À les garder ces joueurs-là. Mais c'est vrai que ça aurait fait juste aussi pour la Ligue des Champions. Mais tu as raison, avec Jonathan David, Lille, entre les joueurs en fin de contrat, celui à qui il reste un de contrat, mais qui veulent partir, comme Zegrova, Benjamin André, etc., ça va être compliqué de créer. Moi, je pense que Lille, c'est un des effectifs qui est le plus en danger cet été. Et que si, c'est pour ça que Genesio, apparemment, il met un peu la pression. En gros, si je reste, je veux que j'ai un il faut que j'ai un projet à ma hauteur. Et je comprends, parce qu'il y a vraiment un risque de vraie perte qualitative et quantitative.
Il y a pas la Ligue des Champions, tu peux pas.
Déjà, cette année, il a bricolé. Hein. Chaque match, il bricolait. Il avait une tonne de blessés.
C'était compliqué.
Ça s'est vu contre Dortmund de retour. On en a parlé ici. C'est vrai que comme Zegrova, il n'est pas là, c'est Cabella qui se retrouve titulaire pour la première fois en LDC. Et il n'était pas du tout au niveau. Cabella, il a galéré sur ce match. Donc ça fait de la peine. On voit les limites d'un effectif qui est avec des clubs qui ont peu de moyens. Mais ouais, ça, Lille, c'est vraiment.
Il s'est retrouvé même à mettre backer ailier. Vraiment qu'il n'y a plus personne.
Non, et même, je veux dire, Meunier qui joue toute la saison, alors que normalement il est remplaçant parce que leur latéral droit, dont j'ai oublié le nom, qui se pète en tout début de saison, alors qu'il avait été excellent. Non, le brésilien.
Ah, Thiago Santos.
Qui fait une saison exceptionnelle l'an dernier, qui se blesse en tout début d'année. Donc voilà, des choses qui ne sont pas prévues et ça bricole et tout. Donc Lille, entre les malchances et la fin de cycle de cet effectif-là, effectivement, c'est un mercato dangereux pour Lille cet été.
Merci Lucas. On va parler du Paris Saint-Germain très brièvement. Bambouri, est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain se sont imposés, hein, ils ont retenu la leçon de faire la fête avec une victoire, parce que l'année dernière c'était avec une défaite. Et là il y avait ce petit point aussi où tu sais que Greenwood a marqué un doublé de l'autre côté, t'as Ousmane Dembélé titulaire, et tu sais que mathématiquement, il peut mettre un ou deux buts et repasser devant Greenwood, en sachant en plus avec le penalty loupé de Gonzalo Ramos. Est-ce que Luis Enrique ne lui enlève pas un peu l'herbe sous le pied en le faisant sortir à la 70e minute et même en le faisant... Bon, je comprends qu'il n'ait pas joué contre Montpellier, même si tu sais que c'est une défense catastrophique et que lui, il était un peu blessé, il revient de Champions, ok. Mais là, est-ce que tu comprends qu'il le fasse sortir pour toi? Il aurait dû le faire sortir ou le laisser un peu sur le terrain?
Pour moi, il aurait dû le laisser encore un peu sur le terrain. Après, bon, il y a la finale de Coupe de France, celle de Ligue des Champions. Donc, ça peut être un peu juste parce qu'il revient de blessure. Mais bon, après, il a eu le temps aussi de marquer quand même.
Il a raté ses occasions. Hein. Il a raté des belles. Là. En début de deuxième période, là, celle qui met au-dessus. Pff.
C'est ça le problème. Mais après, bon, après, c'est un choix. Il finit quand même meilleur buteur, donc on ne va pas s'en plaindre. Mais bon, ça aurait pu lui coûter la première place.
Ça aurait pu lui coûter la première place, surtout si Greenwood aurait marqué son pénalty aussi loupé. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Lucas ?
Moi, je pense que c'est au contraire très révélateur de la philosophie de Luis Enrique, où les objectifs individuels vont après les objectifs collectifs. Pour moi, Luis Enrique, il considère que le meilleur buteur, c'est symbolique, mais ce n'est pas forcément important. Et qu'il a deux finales à jouer, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Comme tu dis, il a été un petit peu blessé il y a quelques semaines. Pour moi, Luis Enrique, c'est vraiment dans son... vraiment dans sa philosophie et il n'en déroge pas. Voilà, je vais préserver un peu mes meilleurs joueurs. Je vais te... T'as été blessé, je vais pas prendre de risques inutiles. Peu importe meilleur buteur ou pas, on est champion de France. Il y a une finale de Coupe de France où il va jouer, je pense, 90 minutes. Et après, il y a la Ligue des Champions. Je pense qu'ils sont de plus en plus focalisés sur cet objectif. Et que vraiment, le titre de meilleur buteur pour Dembélé, Luis Enrique, c'est vraiment pas sa priorité.
Ah, je suis totalement d'accord.
Franchement, je pense qu'il s'en fiche complètement
C'est Coupe de France, Ligue des Champions, il y a des échéances beaucoup plus importantes qu'être meilleur buteur de Ligue 1. Donc, il a fait son choix, surtout qu'il déjà, il avait une alerte à la cuisse. Donc, il ne veut même pas prendre de risques.
Mais quant à ce petit truc quand même où tu te dis, je peux récompenser mon joueur, lui-même, ça va lui faire plaisir de terminer avec
après,
le trophée.
Après, personne dit qu'il aurait marqué, tu vois, aussi.
Personne ne dit qu'il aurait marqué, mais lui laisser cette possibilité-là, déjà. Non, parce que lui, il est conscient.
Il a laissé 74 minutes, déjà.
Oui, C'est sûr. Après, et Marseille, comme on a vu, match, il est sorti, même pas 2-3 minutes après, il y a eu un pénalty.
Après, ça, c'est le football.
Ah ouais, bien
sûr. Il serait resté sur le terrain, il n'aurait pas eu de pénalty.
Oui, oui, c'est
et Marseille, en fin de match, avant le quatrième de Rabiot, ils ont essayé aussi de faire marquer Greenwood un peu à la caricature. Et il l'a pas,
il
mis,
l'a pas mis.
Ils l'ont cherché à des moments où il ne fallait pas le chercher, etc. Ils ont un peu forcé. Et finalement, c'est Rabiot qui met
parce
un
que même Rabiot sur son but, s'il fait attention, il peut la décaler à Greenwood, mais il ne le voit même pas quand il dribble le gardien.
Il est parfait.
Il finit.
Je vois, je vois. Voilà, du coup, c'était tout pour la Ligue 1. On va.
Ah, est-ce que juste. Oui. Je peux faire un aparté sur deux équipes. Juste rapidement, j'aimerais parler de deux équipes. Rennes, saison très mauvaise, catastrophique. Au vu du budget, je comprends pas comment Rennes a pu faire une saison aussi, aussi mauvaise. Et Nantes, pour moi, il y a un moment donné, ça va descendre, Nantes. Si...
Faut changer de coach.
Ah, faut changer de coach, faut changer de politique, faut changer de président
de
déjà.
Sportive, je pense, ouais.
Parce que Nikita, ça, c'est bon, au bout d'un moment, on souffle. Et je pense que ça va finir par descendre à un moment donné si ça change pas.
Tous les ans, ils sont limite.
Ouais, après, plus... ils vont appeler Duprat, et puis après Duprat, ils vont réappeler Comboiré. Après, je sais pas, ils vont appeler Domenech.
Tous les plombiers.
Je sais pas, avec tous les plombiers.
En plus, avec la perte des droits télé, il y a un truc comme ça où Nantes, ils ont déjà annoncé par la voix de Kita et qu'ils voulaient déjà vendre tous leurs actifs. Donc, on peut penser à Ablin, à Moses Simon qui vont partir.
Oui,
le penant sur Nantes, donc effectivement, on risque d'avoir un Nantes affaibli comme beaucoup d'équipes. Mais il y a cette question des droits télé qui rentre en compte avec les clubs qui vont avoir des recettes minimes par rapport aux années précédentes. Et comme tu as dit, Rennes, ça, normalement, avec Bay, il devrait avoir un projet plutôt cohérent. Par contre, les équipes comme Nantes, ouais, on peut s'inquiéter sur le 11 qu'ils présenteront à la première journée du prochain championnat.
Merci Lucas. On va rappeler tout simplement le classement. Hein, le classement final, Paris Saint-Germain premier. Hein. Et on va parler de deuxième, Marseille.
Ils ont fini deuxième finalement.
Ouais. Et avec Monaco qui ont...
totalement lâché le match.
C'est du Monaco tout craché, tout simplement. Monaco qui ont perdu 4-0 hein, face à Lens. Lens qui ont terminé en beauté quand même. Pour peut-être la dernière de Wilsil, même c'est la dernière. C'était
ouais,
la
il
dernière
a annoncé,
de
ouais,
Wilsil,
il a, c'est clair,
il a annoncé.
Ouais.
Et voilà, du coup, en troisième position, Monaco. Quatrième position, on a Nice. Mais c'est barrage, Ligue des Champions.
Ouais, barrage.
Parce que vous dites tous, ils vont jouer la Ligue des Champions.
C'est totalement vrai. C'est totalement.
Non, c'est pas certain. En plus, en sachant ce qui arrive à chaque fois aux clubs français en jouant les barrages.
Oui, c'est plutôt une exception, les clubs français qui s'en sortent après les barrages, qu'une chose acquise, c'est vrai.
Voilà. Du coup, on a Nice qui vont jouer les barrages à égalité de points avec Lille. Lille qui ont assuré l'essentiel hein, pour le dernier match de Jonathan David aussi. 5e, Lyon avec 57 points, 6e, différence de but avec Strasbourg, 57 points. Hein, Strasbourg qui ont perdu tout simplement la balle de match hein, en tout simplement en ayant concédé ce pénalty en fin de match et qui ont fini 7e. Relégué Montpellier, ça faisait déjà un petit moment. Saint-Etienne qui n'ont pas pu sauver et qui seront relégués aussi. Hein, Saint-Etienne qui joue un peu à l'ascenseur. Et Reims. Voilà, c'est Reims qui en paye les frais et Reims joueront les barrages face à Metz sur une double confrontation parce que Metz sont imposés face à Dunkerque 1-0. Ça va être compliqué pour nos amis Rémois en sachant que là, ils vont enchaîner avec la finale de Coupe de France.
Ouais. Surtout que Metz, c'est les pros des allers-retours, donc ils seront prêts.
Ils se sont fait peur quand même face à Dunkerque.
Après, même à Dunkerque, ils ont fait une très bonne saison. Hein. Faut pas négliger hein, la saison de Dunkerque.
Et ça joue bien au foot. Surtout pour la Ligue 2, franchement, Dunkerque, c'est une des équipes qui a mis des belles choses en place.
Mais déjà, quand j'ai vu le match contre le PSG en Coupe de France, j'étais choqué. Ils ont même fait mieux que des équipes de Ligue 1 face au PSG.
Ouais, je suis d'accord.
On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Liga. Le Barcelone, sacré champion, qui se sont tout de même inclinés à domicile 3-2 face à Villarreal. Le Real Madrid s'impose 2-0 encore avec un but de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui se dirige tout droit vers le Pichichi, à moins que Lewandowski réalise un quadruplé magique. Ça reste à voir encore. L'Atlético de Madrid qui sont imposés 4-1 avec un somptueux but de Julian Alvarez. Ah de retour dans les locaux de mon Paris FM. Le Barça, qui sont sacrés champions, hein, le Barça enfin. Deuxième titre majeur, en tout cas deuxième titre de championnat pour Lamine Yamal. On a pu voir aussi un titre pour... c'est le premier de Lewandowski, le deuxième.
Le deuxième
Liga de Lewandowski aussi. Et le Real qui se sont imposés 2-0 avec un but de Mbappé et avec deux cartons rouges aussi contre FC Séville hein, qui ont amplement mérité les cartons rouges, je pense. Hein,
là, le deuxième, il est horrible. Une minute trente après rentrer en seconde période. Là.
En plus, il revient de suspension. En plus, il revient de suspension. C'était très très compliqué pour lui. Et le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, franchement, on a vu un joli but de Julian Alvarez hein, sur coup franc en pleine lunette. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée de Liga Bombolé?
C'était une belle journée. Après, bon, le Barça, ils étaient déjà champions, donc ils n'avaient plus grand-chose à jouer. Yamal, il a fait un très gros match quand même. Et le Real, quand même, ça a été dur. Même à 10 contre 11, ils n'y arrivaient pas.
Oui.
Et ensuite, à 9 aussi, c'était pas trop ça. Et après, Mbappé, il met une frappe en dehors de la surface, ça le passe. Et après, Bellingham marque derrière. Mais bon, le titre, il est déjà pour le Barça. Et vraiment, l'Atlético, Alvarez, il fait une bonne saison. Il a mis un très beau but sur coup franc.
Et un deuxième but après.
Oui. Un deuxième but qui est tout aussi beau. Hein. C'est le mouvement avec Griezmann qui fait l'appel. Je trouve magnifique le deuxième aussi.
Oui. Et après, c'était une belle journée de Ligue 1.
Et qu'est-ce que tu en as pensé? Athletic Bilbao aussi, qui se sont imposés 1-0 face à Valence.
Après, les matchs les plus, on va dire, qui comptaient le plus en Espagne, c'était plus en dessous.
Oui,
et
aussi.
Tout ce qui se bagarrait pour Europa League et les dernières places de Ligue des Champions. Oui. Donc, c'était plus ces matchs-là. Le Barça, c'était un match foot loisir, c'était du foot total, il y a eu des buts, il y a eu du spectacle. Après, dommage, il n'y a pas eu la victoire du Barça pour fêter leur titre. Mais Villarreal jouait leur place aussi en Coupe d'Europe, donc ils avaient des choses à jouer. C'était sûr que ça n'allait pas être chose facile. Et le Real, comme d'habitude, hein, toujours en train de galérer. Mbappé qui ressort de la boîte magique comme il peut. Mais sinon, après, ça a été une belle journée de Liga, mais ça a été, on va dire, des matchs coup-ci, coup-ça, mais il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu beaucoup de buts.
Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu du spectacle en tout cas, mais au moins du côté de Valence, hein, Valence Athletic Bilbao, 1-0. Bilbao qui sont la meilleure défense de la Liga hein, cette saison. Hein.
C'est
on
dommage
voit des matchs très ternes un peu.
C'est dommage qu'il ne l'ait pas montré en Europa League contre United parce qu'on avait du mal à croire que c'est la défense de Liga autant à l'aller qu'au retour. Mais non, ils ont quand même fait une saison solide. Ça restera, je pense, une belle année pour le public de San Mamés. Sinon, moi, quand même, je retiens deux, trois choses, notamment le Real Madrid. Je trouve que c'est vachement difficile cette fin d'année. On a l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont lâché. On sait qu'avec la direction sportive, il y a quand même pas mal de discussions sur qui va rester, qui va partir. Je pense qu'il y a au moins un offensif qui va faire les frais de cette saison. Et on voit aussi qu'ils ont aussi... la direction a pris un petit peu acte des problèmes qu'ils ont traversés cette année. Ça veut dire qu'il y a déjà un latéral droit qui a été recruté, un défenseur central. C'est un pourparler très avancé pour un latéral gauche. Donc en fait, je pense que dès le Mondial des clubs, on va voir un Real Madrid très différent et que leur saison à eux est loin d'être terminée. Par contre...
Puchen aussi qui a été recruté.
Oui, c'est un des trois. C'est le central dont je parlais. Et il y a leur ancien latéral, celui qui était à Benfica cette année, j'ai oublié son nom.
Carreras,
c'est ça. Qui arrive, visiblement, c'est quasiment bouclé. Donc là, en fait, je pense qu'ils en ont marre de mettre des joueurs un petit peu latéral, un petit peu central. Ils veulent arrêter de bricoler. On sait que Xabi Alonso aime bien d'avoir des pistons très, très offensifs. Donc pour Carreras, c'est parfait. Alexander Arnold, on n'en parle même pas. Et donc voilà, je pense que le Real, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans leur équipe. Et on voit que le Pérez.
Ça parle aussi de Steeler.
Oui, Steeler, de Stuttgart.
De Stuttgart,
milieu de terrain. Le 6, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, il est annoncé un peu partout, Steeler. Je pense que c'est une des grandes attractions. Tout le monde sait qu'il va aller plus haut que Stuttgart. J'ai vu que le Bayern aussi voulait le récupérer, etc. Je pense que ce sera un des joueurs qui
Bayern,
sera très prisé.
Ils veulent tout bloquer.
Tous les bons joueurs allemands.
Steeler.
Wirtz, ça a l'air quand même très bien parti, hein, puisque apparemment tous les autres clubs.
En tout cas, City,
jettent l'éponge, dont City. Mais voilà, donc pour rester sur le Real, ils ont l'air d'avoir bien avancé. Moi, je ne suis pas sûr que Steeler de Stuttgart, c'est le profil dont ils ont le plus besoin. Je pense qu'avec Tchouaméni...
Kroos a validé...
Ouais, mais pour moi, c'est pas... Kroos, quand je l'ai vu, quand il était jeune, Kroos, c'était un milieu offensif. Moi, j'aimerais un joueur avec plus de créativité que Steeler, même si il y a toujours un jeu long en plus intéressant, donc il peut faire plein de trucs. Mais pour moi, c'est pas le profil privilégié. Et le Barça, franchement, Barça, Je trouve qu'on ne dit pas assez à quel point on a eu une espèce d'idée du Barça qui a été ressuscité par Flick cette année, avec du beau jeu, toujours la volonté de mettre un but de plus que l'adversaire. On en a parlé ici dans cette émission, le fait que la défense soit toujours très très haute, avec des moments étouffants, et même si ça a un peu craqué contre l'Inter par manque d'expérience. On voit que l'équipe elle a un très très bel avenir. Et enfin l'Atlético, je suis un peu déçu qu'ils aient pas amené la course au titre un petit peu plus loin, parce que franchement ils ont le potentiel. Moi je pense qu'Alvarez l'an prochain ça va être un des meilleurs joueurs du monde de Liga, etc. Donc je compte sur l'Atlético pour revenir encore plus fort l'an prochain.
Merci Lucas. Alexandre ?
Franchement l'Atlético de Madrid ils ont arrêté leur saison quand ils se sont fait sortir par le Real, ils ont arrêté leur saison. Ils ont tout perdu après, ils ont perdu la Coupe du Roi, ils ont perdu la Liga. Fin de saison compliquée pour l'Atlético de Madrid et j'avoue.
Je sais juste que la Liga, il y a quand même un moment, ils font deux matchs nuls. Je ne sais plus, c'était il y a quelques semaines, ils font deux matchs nuls ou défaite, deux résultats négatifs d'affilée. Et c'est là que vraiment ils perdent la Coupe. Là, c'est dommage que c'était encore après ce que tu dis. Mais
c'est dommage parce que c'est un des meilleurs effectifs d'Espagne, l'Atlético de Madrid.
Ils ont déboursé. Hein.
Et ils ont déboursé beaucoup. En plus, ils ont fait, je trouve, un recrutement plutôt intelligent. Et franchement, en termes d'effectifs étoffés, peut-être je vais me faire en gronder, mais
c'est l'un des plus gros effectifs de la Liga.
C'est l'un des plus gros et les plus cohérents effectifs de la Liga. C'est pour ça, moi, ça fait 20 ans, je le dis, mais Simone, au bout d'un moment, il va falloir
changer. Il va reprolonger, je crois.
Ils reprolongent à chaque fois.
En fait, à chaque fois où on croit qu'il va partir, il termine bien la saison. Et on le reprolonge.
Mais non, mais franchement,
il assure toujours l'essentiel. Je pense qu'en début de saison, ce qu'eux doivent lui dire, ils voient le Real et le Barça quand même, parce que tu sais que ce n'est pas les mêmes budgets qu'ils investissent, en tout cas dans le recrutement et les joueurs qu'ils peuvent avoir. Ils n'ont pas de Lamine Yamal, ils n'ont pas de Kylian Mbappé, ils n'ont pas de Bellingham, Vinicius, ils n'ont pas de Pedri de l'autre côté. C'est... Voilà, ils ont des Julian Alvarez.
Il y a un peu moins de talent, mais je te jure qu'ils ont des joueurs.
Si vraiment tu leur mets un coach qui leur fait jouer au football, ils peuvent faire quelque chose.
Non, je dis bien qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais
est-ce que vous les voyez. Ils ont gagné la Liga.
Oui, mais est-ce que vous les voyez. Oui, mais est-ce que vous les voyez. Voilà, tu vois, par exemple, tu leur as mis un Luis Suarez, un bon Luis Suarez.
Mais là, Suarez, il s'est remplacé par Alvarez.
Oui, mais c'était avec Diego Simeone.
Et c'est la seule année où il les a fait jouer au foot.
Parce que peut-être qu'il avait les moyens.
Il y avait Marco Llorente qui marchait sur l'eau à ce moment-là en plus.
Aussi, et t'avais Lino aussi qui était bon.
Il y avait
de bons joueurs quand même de ce côté-là. Oui, non, mais à ce moment-là, mais depuis, c'est compliqué. En tout cas, moi, je pense que Diego Simeone, le travail qu'il fait quand même, autant de saisons finir dans le top 3 de la Liga à chaque fois, faut le faire quand même.
Oui, je pense qu'après, c'est sa place. À la base, c'est sa place. Donc s'il n'est pas dans les 3 premiers, c'est qu'il est en échec.
Oui, mais après, quand il les a repris, maintenant, depuis 5, 6, 7 ans. Ouais,
oui, en fait, il a fait l'Atlético à un grand Europe, finalement. Mais maintenant, ils ont un gros budget, donc ils se doivent d'être au moins dans les 3 premiers. Après, juste, je ne sais pas si vous avez vu la saison de Griezmann, mais je n'ai pas compris pourquoi il a reprolongé, en fait. Parce que, honnêtement, et pourtant, c'est un jeu.
Il a reprolongé ?
Il a reprolongé, ou alors il ne part pas.
Ouais, c'est ça. Apparemment, il fait la saison prochaine comme remplaçant. Mais le match d'hier, je pense qu'il illustre très bien le rôle de Griezmann. Ça veut dire, des fois, apporter un petit peu sa touche dans des matchs un petit peu serrés. Et je pense qu'il sera moins sur le devant de la scène.
Je pensais qu'il allait partir à la MLS pour rejoindre Giroud et Lloris.
Mais il ira l'année prochaine. Il a le temps.
Mais franchement, parce que la MLS.
Et du coup, ça serait plus. Sorloth qui sera titulaire.
En fait, ce serait pas mal d'expérimenter une attaque à deux avec Sorloth et Julian Alvarez. C'est déjà un peu le cas de temps en temps.
Ouais.
Je pense que ça pourrait vraiment bien fonctionner, un peu à l'image de.
Mais ça finit toujours pareil. C'est au début Sorloth, il va jouer, Griezmann, il va redevenir titulaire.
Je pense pas. Je pense pas. Il va faire des bouts de match à la.
Parce que je vois pas Sorloth sur toute la saison.
Et moi, je pense qu'ils vont surtout recruter. Parce que
Sorloth, c'est un vrai bon attaquant.
C'est un très bon attaquant, mais c'est comme cette saison. Par exemple, à chaque fois qu'il a eu des périodes où il marquait beaucoup, au final, après, il se retrouve toujours remplaçant. Ou il mettait Alvarez, ou il mettait Sorloth. Jamais il voulait associer les deux.
Il est un peu limité en termes de profil et d'espace dans le jeu.
C'est pour ça. Donc l'année prochaine, au final, il risque peut-être de lui faire la même chose.
C'est pour ça que pour moi, il faudrait un nouvel entraîneur. Mais bon, on aura le temps de voir. Après, le problème, c'est qu'il est resté tellement de temps que si tu te sépares de lui, tu prends le risque de finir 6, 7, 8, 9e en reconstruction l'année suivante.
T'as déjà un peu de reconstruction. Comme tu dis, Griezmann, c'est sur la fin de cycle. T'as Angel Correa qui est leur super sub depuis 10 ans, qui va peut-être partir aussi. Tu vois, il y a pas mal de choses qui peuvent bouger. Et moi, je pense qu'en vrai, Simeone, il leur a montré une stabilité. Et que tant qu'ils resteront dans le top 3, ils vont continuer.
Peut-être. On a parlé beaucoup de l'Atlético, mais le Barça, c'est mérité. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Ils ont fait une saison en Liga qui est incroyable. 99 buts. Il reste un match, donc ils peuvent faire les 100 buts. Même si on se souvient, on avait parlé ici, est-ce qu'ils vont perdre la Liga? Parce que tu sais, à un moment, le Real, ils étaient repassés devant, ils avaient perdu beaucoup de points, le Barça, etc. Au final.
Le Real ont perdu beaucoup de points et Barça est repassé devant.
Et au final, c'est logique.
Toute la saison, ça a été un peu ça, hein, je pense.
Ça a été un peu ça, mais finalement, c'est logique. C'est mérité. Après, je pense, si on parle un peu football, que la défense, le piège du hors-jeu et la défense archi-haute à la ligne médiane, ça commence à montrer vraiment ses limites. D'autant plus qu'il y a eu le but d'Ayoce Pérez.
Les gens commencent à le comprendre.
Les gens commencent à comprendre. Et c'est ce que Omar disait, Omar Da Fonseca, il le dit depuis longtemps, c'est que c'est au milieu de terrain de faire l'appel. Et si les milieux de terrain font l'appel, forcément, il n'y a pas de hors-jeu. Mais donc, je pense que Flick, il aura. Déjà, il faudra des recrues au Barça. Et je pense que Flick, il aura affaire sur cet aspect du jeu. Voilà.
Merci, Alexandre. Bambori, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la Liga? Tu t'es exprimé déjà là-dessus?
Oui.
Ok. Et Jason,
moi, c'était pour revenir sur le Real. J'attends vraiment de voir ce que Xabi Alonso va amener à cette équipe, s'il va réussir à poser sa patte. Parce que je me demande comment il va les faire jouer.
Ça va être dur.
Et où il va placer les mecs.
Moi, je pense qu'il avait déjà une idée.
Moi aussi, je me demande. Hein, ça va être dur.
Moi, je pense qu'il a déjà une idée. Il avait déjà une idée depuis qu'il était à Leverkusen. Parce que Leverkusen, ces derniers temps, ces derniers matchs, en tout cas, ça n'allait plus. En tout cas, on ne pense pas qu'il avait
la tête. Les joueurs avaient lâché, ça y est, ils étaient assurés de terminer sur le podium, ça y est. Mais là, comme on disait par exemple pour Steeler, je pense qu'il cherche un joueur comme ça parce qu'il souhaite jouer à deux au milieu.
Bien sûr.
Et il ne voit pas par exemple Kamavinga ou Tchouaméni dans les deux.
Il cherche des mecs comme ça.
Il voit peut-être un Valverde accompagné de Steeler ou. Mais parce qu'un Tchouaméni, je ne le vois pas dans un milieu à deux comme il joue à Leverkusen. Et soit il va le faire reculer en défenseur central ou. Mais.
Est-ce qu'il ne doit pas recruter un 9, le Real?
Mais c'est Mbappé.
Un 9 comme Rossellou, oui. Profil comme Sorloth, Rossellou, il le faut automatiquement.
Mais Xabi Alonso,
même s'il va chauffer le banc toute la saison, il est obligé d'être là.
Mais regarde, Xabi Alonso, dans les matchs décisifs, il ne faisait même pas jouer Chic et Boniface.
On en a parlé.
Ouais, deuxième partie de saison, c'est ce qui me rendait fou. Hein. Pour moi, c'est ce qui leur a coûté la double confrontation contre le Bayern, même si peut-être qu'ils auront perdu avec Flick et Boniface. Je suis sûr qu'ils auront fait en tout cas, ils ont réussi peut-être à mettre au moins un but. J'en suis sûr.
Mais ça, je pense, c'est la mentalité espagnole. C'est comme quand Guardiola perdait à chaque fois ses titres, c'était à cause de ces bêtises là. Il a enlevé son œuf, il mettait des mecs qui étaient même pas des neufs.
Tu peux dire aussi quand il a gagné tout, il avait pas
mais qu'elle a gagné, il y avait Haaland.
Non, je parle de
là, il a perdu, il y avait Haaland aussi.
Ah oui, non, mais après, on peut pas tout en gagner. Mais je parle de par exemple, il y a certaines défaites qui ont coûté par exemple en Coupe d'Europe à cause de ces bêtises là.
La finale de Champions League face à Chelsea.
Mais t'as Patrick Schick, t'as Boniface, ils sont en feu. Il les fait pas jouer.
Ah, et puis même, c'est des attaquants qui savent remiser. Techniquement, ils sont au-dessus du lot. Schick et Boniface, ils ont leur style chacun. Ça veut dire que quand tu veux une équipe même très technique qui savent jouer au foot, eux, pour remiser, ils sont là.
Exactement.
Ils savent conclure. Donc moi, effectivement, quand t'as des neufs de ce profil-là, je comprends pas pourquoi il joue son neuf. Mais visiblement, il a des choses dans la tête. Donc on verra ce que donnera au Real. Ouais. Mais je pense aussi qu'il serait bien avisé de recruter un des deux au Real pour...
Parce que Mbappé, c'est pas Wirtz. Hein. J'ai hâte de voir ça.
Parce que si
c'est justement un Wirtz qu'il leur faudrait.
Ouais,
plus
c'est
qu'un Stiller, justement. C'est là où je suis
pas
d'accord.
C'est pour ça que je dis ça.
Mais moi, là-bas, je pensais qu'il allait ramener Wirtz avec lui.
C'est difficile. Il y a qui
Mais tu ramènes Wirtz, tu le mets où?
Ça fait trop de joueurs offensifs.
En fait, parce que lui, il joue en 3-4-3. Donc ça veut dire 3 défenseurs, 2 milieux avec 2 pistons et 2-10 derrière l'attaquant. En fait, derrière l'attaquant, il aurait mis Wirtz. Et
après, t'as Bellingham.
Après Vinicius, Bellingham. Après, ça a dû se faire ses choix.
On verra.
Mais Aguilar, franchement, Aguilar, moi je suis persuadé que c'est une vraie promesse.
Moi je suis persuadé.
Si tu le mets en confiance, il peut.
Je suis persuadé.
Et qui prend un peu de.
Ah oui,
de physique,
moi je verrais bien Arda Güler derrière, mais après, du coup, Bellingham et Vinicius, tu les mets où?
C'est
Rodrigo pour moi, par contre, qui est sûr de partir.
Ah oui,
ça monte de plus en plus.
Pour lui, en tout cas, il faut qu'il parte.
Bah, même au niveau de la place dans l'effectif, je pense que Rodrigo, vu comment
on
va jouer.
Prix aussi, hein.
Ah oui, ce sera mérité.
Je pense 60-70.
100 au minimum.
Je pense pas.
Tu penses que le Real vont le vendre à 60-70 millions?
Je pense aussi, comme Vara, 80 millions.
Parce que c'est un joueur qui.
Le marché des transferts, il a un peu.
C'est un joueur qui désire plus.
Non.
Donc ça veut dire.
Rodrigo, c'est un joueur qui désire plus.
Le Real.
Que le Real ne désire plus.
Oui, le Real ne désire plus.
Ah non, mais même si le Real ne désire plus, ils vont pas le montrer que le Real ne désire plus.
Tu vas pas vendre un joueur 100 millions à un mec que tu désires plus.
Oui, c'est vrai.
Mais moi, je vous le dis. Attendez.
C'est compliqué de le garder.
Bah oui.
Non, je dis pas que c'est pas compliqué de le garder. Mais attendez, il est 21h22, on est dans les locaux de mon père FM. Là, vous me dites que le Real vont vendre Rodrigo pour 60-70 millions.
Tu sais que le marché des transferts.
Moi, je pense plus 80-90, mais moins de 100 millions, je pense.
Mais 100 millions.
Moins de 100 millions.
Moi, je pense que c'est
85, moi je pense. Aux alentours de 85.
Ouais, c'est vrai, avec des petites clauses.
Très précis, je suis d'accord.
Ouais, d'accord. Ils vont pas le vendre 100 millions.
Mais bien sûr qu'ils vont le vendre 100 millions. City ils poseront tous les jours 100 millions pour le vendre. City poseront les 100 millions.
Je pense qu'ils vont prendre un gros salaire en plus de ça, je pense.
Mais City poseront les 100 millions. City poseront les 100 millions sur Rodrigo. Il est jeune, il est talentueux, il a toujours marqué dans les matchs importants, il a toujours montré sa patte dans tout. Et franchement, non.
C'est un joueur extrêmement sous-coté.
Non, mais excusez-moi, mais un mec comme Rodrigo, on verra bien. On en reparlera. Moi, je vous le dis, en tout cas, le Real ne vont jamais vendre Rodrigo à 70 millions. Ça, jamais. Ou il y aura des clauses de bonus extrêmement faciles, atteignables. Atteignablement, très facilement.
Les clubs qui peuvent mettre 100 millions, ils vont aller sur d'autres profils. On voit que Bayern, ils vont aller sur Wirtz.
C'est ça.
Moi, je pense que Xavi Simons de Leipzig, c'est le profil parfait pour Guardiola et que c'est lui qui va vouloir. Et je pense qu'en fait, Rodrigo, par élimination, les clubs qui mettront 100 millions plus,
les deux en City,
ils seront pas là.
City peut prendre les deux. Si
On verra bien. Je vous dis, on verra bien. Parce que du côté de City, là, ça va pas très bien non plus. Voilà pour la Liga, en tout cas. On va rappeler le classement. Barcelone, premier avec 85 points. Real, deuxième avec 81 points. Atlético de Madrid, troisième avec 73 points. Athletic Bilbao, 70 points. Villarreal, 67 points. Villarreal qui se sont assurés une place en Ligue des Champions parce que c'est les 5 premiers qui iront en Ligue des Champions. Sixième, septième, Betis. Ils sont assurés, le Betis, d'aller en Ligue Europa. Et Celta Vigo ont leur destin entre les mains à un point du Rayo Vallecano et à un point de Osasuna. Voilà, tout va jouer entre ces équipes-là pour le haut de tableau. Pour le bas de tableau, Valladolid et Las Palmas officiellement relégués. Les Ganes qui peuvent encore se sauver avec une victoire et en espérant un match nul ou plutôt une défaite, parce que le match nul même c'est très compliqué, différence de but. Mais ça va être... Non, c'est les face-à-face qui les départagent. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les Ganes espagnols. Mais en tout cas, ils devront s'imposer impérativement pour cette dernière journée pour rester tout simplement en Liga. Et FC Séville, hein, 16e avec 41 points quand même. Hein, moi, ça me fait mal de les voir à ce niveau-là. À 4 points de la relégation quand même.
Il n'y a rien.
4 points de la relégation, c'est très, 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 très compliqué. Voilà en tout cas pour la Liga. On va se faire une pause avant de revenir avec la Première Ligue.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans l'émission Au bout du foot. Arsenal qui se sont imposés 1-0 face à Newcastle, Brentford qui ont perdu à domicile 3-2 après avoir mené pour la dernière de Leicester et de la légende Vardy en tout cas du club de Leicester et en sachant son parcours aussi extraordinaire, hein, Vardy auteur d'un but et qui permet à Leicester de, pour la dernière en première ligue, de s'imposer 2-0 face à Ipswich. Nottingham Forest qui reste aux accros et qui auront leur destin entre les mains en s'imposant 2-1 face à West Ham. Chelsea qui se sont imposés 1-0 face à Manchester United. Aston Villa qui se sont imposés 2-0 face à Tottenham. On a quand même les finalistes de la Ligue Europa qui ont perdu ce week-end et qui sont 16e et 17e de la Première Ligue. Je tenais à le souligner. Quelles sont vos impressions sur ces matchs Brighton-Liverpool qui sont en cours? 1-0 pour Liverpool, but d'Eliott. On y reviendra d'ici la fin de l'émission pour vous dire où est-ce que ça en sera. Jason, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette journée de Première Ligue?
Ah, ça a été une bonne journée parce que en voyant le classement pour la Ligue des Champions... Le duel est pas gagné. Hein. Il y a beaucoup d'équipes à 66 points. Entre City qui a un match en retard avec 65 points, la bagarre, ça va être une grosse lutte jusqu'à la fin de saison. Et la dernière journée, je pense que le multiplex de la dernière journée va être passionnant.
Entre Nottingham et Chelsea, ouais, ça va être vraiment bien.
Ah, ça va être même Newcastle.
Newcastle aussi.
Ouais. Newcastle aussi. Qui
ils ont créé une cartouche, Newcastle, là.
Newcastle.
Ouais. Ils ont battu deux fois Arsenal en League Cup. Pour moi, c'était vraiment le match. Je pensais qu'Arsenal allait encore se pétrifier. Finalement, ils l'ont gagné. Bon, c'était pas le match le plus plaisant de la saison, mais assez sereinement avec ce but, très beau but de Rice. Je pense qu'ils ont perdu beaucoup Newcastle sur la journée précédente. Ouais.
Bah, avec Alexander Isak aussi absent, blessé. Hein. Ouais, blessé. Ça a compté.
Après, tout dépend. Ils affrontent qui lors de la dernière journée?
Newcastle. Ils affrontent. Everton, ouais, à domicile.
Ça va, c'est faisable.
Ouais, c'est faisable. Après, Everton, c'est une équipe en forme. Hein.
Illiman Ndiaye, très belle saison. Il a un gros flop en Ligue 1 et franchement, la PL, c'est son jardin. Il fait des gestes pas, de classe. Vraiment, il me plaît. Hein.
Bon, excuse-moi, mais moi, je ne l'ai pas vu flopper en Ligue 1. À Marseille, pour moi, c'est pas un flop.
Pour moi, c'est un flop. Parce que de ce qu'il monte sur le terrain et quand tu vois les statistiques.
À Marseille, il était trop stressé.
Non, en fait, c'est ça. Il a même pas été mis
à Marseille.
Mais déjà, il a même pas été mis dans de bonnes conditions.
Il y a trop de pression dès le début, mais il a flopé pour moi. Alors qu'il a des qualités, hein. Franchement, on le voit cette année, même le but qu'il a mis, je crois, contre City plutôt, qui était magnifique. Là, il met doublé vraiment les deux buts avec beaucoup de sang-froid. Et même, tu vois, toutes ses qualités. Avec Marseille, je les ai vus à certains moments. Quand ils se font éliminer en Ligue Europa, je sais plus, je crois, c'est Benfica, je sais plus, le dernier qui les élimine. Il fait une entrée au match aller, je trouve qu'il est extraordinaire. On voit que techniquement, il est un ton dessus de tout le monde, mais ça, il l'a montré trop peu. Alors qu'en Pelle, on voit que vraiment, c'est le meilleur joueur de son équipe. Hein. En tout cas, offensivement, c'est le fer de lance.
C'est lui qui propose.
On va parler aussi de Chelsea qui sont imposés 1-0. Hein, Chelsea qui sont imposés sur le fil hein, face à Manchester United et Aston Villa aussi. Et là, on est obligé de parler du classement. Hein. Le classement va être fou jusqu'à la dernière seconde. Hein. Nottingham Forest qui sont imposés et qui ont leur destin entre les mains. Nottingham Forest n'ont plus qu'à, je dis n'ont plus qu'à, mais ils sont à domicile avec un public qui pousse pour la Ligue des Champions. C'est faisable. En tout cas, il faudrait qu'ils battent Chelsea.
Ah, après, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains.
Si, ils ont leur destin entre les mains.
Mais ils sont septièmes.
Ils sont septièmes. Ils sont septièmes avec 65 points. Ils jouent contre Chelsea.
Les autres, ils ont 66 points.
Oui, mais s'ils battent Chelsea, ils passent devant Chelsea.
Ah, mais ça, tout dépend de City. Si non. City gagne, bah
mais,
si.
Oui, mais même si City gagne, City réintègre le top 5. Okay.
Voilà.
Oui.
Et Nottingham,
oui,
serait
bon, après, avec, oui, bon, après,
être sixième encore.
Ouais. Oui, bon, après, avec 68 points, oui, il faudrait...
Ah, c'est pas fait, hein.
Oui. Mais après, il faudrait qu'Aston Villa s'impose à United pour la dernière de United.
Ils n'ont pas le destin entre leurs mains.
Pour la dernière de United à domicile.
Si Newcastle, Aston Villa, City gagnent,
Ligue des Champions. En tout cas, ils ont leur destin entre les mains pour jouer une compétition européenne.
Exactement. Oui, voilà.
Ils ont leur destin.
De toute façon, quoi qu'il arrive, ils seront en Europe. Parce que les poursuivants, Brentford, ils sont à 55 points. Ils ont 10 points de retard.
Le top 7, on le connaît, mais après, dans quel ordre? C'est ça qui va être intéressant sur la dernière journée.
C'est juste ça.
Et City qui a deux matchs de retard, vu qu'ils ont perdu.
Oui, contre Bantamont à domicile.
Après, c'est pas gagné. Hein.
Contre Bantamont à domicile, Bantamont, ils ont rien à jouer.
Ah, mais même les équipes qui n'ont rien à jouer.
Mais après, dernier match, ils vont à Fulham. Fulham aussi qui n'ont rien à jouer, mais qui font partie. Tu vois, ils sont 10e, quoi. Ils affrontent le 10e et le 11e de PL. On sait que ça peut ne pas être facile. Et on va revenir juste après sur Manchester City. Mais Manchester City qui ont la tête dans le gazon après la défaite.
Ah oui.
Est-ce que ça ne va pas leur porter préjudice aussi hein. Ça compte. Hein.
On peut en parler un petit peu de la défaite au cup, parce que franchement, c'est quelque chose.
On va en parler juste après. Je voulais juste avoir vos retours quand même sur Chelsea qui se sont imposés 1-0 face à United. Et un petit mot pour notre ami Jamie Vardy.
Alors, Jamie Vardy, je crois qu'il ne jouera pas la prochaine pour rester sur 200 buts en 500 matchs avec Leicester, avec le petit clin d'œil. Je trouve que c'est juste formidable. Je pense qu'on a tous un petit peu de respect, sa force d'admiration, ses parcours pas linéaires, des joueurs qui arrivent sur le tard, un peu comme Drogba pour ma génération. Et franchement, c'est super de voir tout ce qu'a réalisé Jamie Vardy, qui n'était pas forcément destiné à le faire, que ce soit en deuxième division jusqu'à son titre avec Mahrez et Kanté. Franchement, je pense qu'il aura sa statue dans la ville de Leicester. Et sinon, ouais, sur Chelsea, je trouve qu'on ne parle pas assez du travail d'Enzo Maresca là-bas. Franchement, le Chelsea qui se récupère en début d'année avec 50 joueurs qui sont en contrat jusqu'en 2030, aucune idée de hiérarchie parce que c'est que des jeunes à fort potentiel entre guillemets, et savoir mettre les bons joueurs de côté, créer un groupe, une cohésion et arriver quand même au moins à assurer la Ligue des Champions. Je trouve que c'était pas gagné, sachant qu'il est encore en finale de Ligue Conférence. Donc pour moi, ouais, Chelsea qui arrive à battre United qui définitivement ne gagne plus un match et s'ils ne gagnent même pas l'Europa League, franchement, ce serait une fin de saison absolument catastrophique.
On voit qu'ils ont tout misé dessus.
Ah, ils ont tout misé, mais c'est un peu à la caricature, là, je trouve, tellement ils ne donnent plus rien en championnat. Et donc, chapeau à Chelsea. Je trouve que c'était pas du tout parmi les. Ils ont été assez constants, mais pourtant, en début d'année, ce n'est pas forcément sûr que j'aurais mis une pièce pour la Ligue des Champions. Et hâte de voir comment ça va se passer.
Cole Palmer qui a connu un gros trou aussi. Hein.
Mais qui fait une saison à 15 buts, je trouve qu'on est assez dur avec Palmer qui a dû.
Oui, mais en fait, en vue de son potentiel et de ça. Ce qu'il proposait même l'année dernière, là, tu t'attendais à ce qu'il explose vraiment. Ouais. Et en début de saison, il commençait à marquer, tu te disais c'est du tout droit.
Il marquait des buts de ouf.
Oui, et maintenant, et pendant 22 matchs. C'est
mais là,
ça,
22 pour matchs, marquer ses derniers buts, je pense qu'il fallait un penalty.
100 jours. Quand
marqué
même.
En PL.
Et il a eu son penalty. En plus, son penalty contre Leicester, il l'a raté.
Non, il l'avait loupé en plus. Il avait eu un penalty, il l'avait loupé.
Il fallait un penalty.
C'est ça, ouais. Alors c'était très compliqué.
Après, dans le jeu, il était beaucoup moins influent.
Aussi,
c'était
aussi,
beaucoup
c'est ça, en fait,
Madueke, que... ouais. qui avait pris un peu le rôle avec Pedro Neto. Ça, ça a changé. Alors que aussi, je pense que c'est peut-être justement le changement de coach, lui, qui lui a causé du tort. Parce qu'avec Pochettino, en fait, il avait les clés du jeu.
Ouais.
C'est lui qui avait tout. Si lui ne marquait pas, je crois que Chelsea ne gagnait pas.
Ouais.
Et là, on le fait que...
Qu'il y avait une Palmer indépendance à Chelsea, sans en parler.
Mais là, le fait que tout le monde ait eu sa chance, parce que Madueke, avec Pochettino, il était mis un peu de côté. Des fois, il était remis titulaire.
Neto aussi.
Et là, il a remis des mecs dynamiques sur le côté. Ça a totalement changé leur style de jeu et ils sont devenus imprévisibles.
Mais il y a encore des changements parce que là, on a vu Reece James très bien revenir cette fin de saison après avoir une année difficile. Ça a été le meilleur joueur sur la contre United. Et ça change beaucoup de son jeu avec le français Malo Gusto. Et du coup, à voir comment on va le chasser l'an prochain. Mais effectivement, il pourrait y avoir pas mal d'ajustements.
Merci Lucas. Alexandre, tu veux t'exprimer ?
Ouais, j'ai pas tant suivi cette dernière journée de PL, à part que du coup. La dernière journée de PL, à part que là, du coup. Ça va être intéressant de voir justement la petite finale entre Nottingham et Chelsea à écran partagé. Mais je crois que c'était le dernier match d'Everton au Goodison Park.
Oui, au Goodison Park.
C'est sympa.
Ils ont fait la fête.
Ils ont fait la fête, ouais. Sinon, voilà, Arsenal a sécurisé sa deuxième place. D'un point de vue plus global, c'est un peu dommage que Nottingham Forest finalement ait lâché des points sur la fin de saison parce que ça aurait été... peut-être pas mal même pour eux de les voir en Ligue des Champions. Après, j'ai hâte de voir de ce que va faire Chelsea l'année prochaine en Ligue des Champions s'ils parviennent à se qualifier. J'ai hâte de voir ça parce que je pense que, comme tu l'as dit, Maresca, il fait un très 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 bon travail et je pense que l'été, il va faire le plus grand bien pour Chelsea. Et ils vont pouvoir, à tête reposée, construire un bon effectif. Donc j'ai vu que Nkunku il allait partir il me semble aussi.
Oui, parce qu'il est pas beaucoup utilisé.
Il était utilisé que pour l'Europa League. Voilà, c'est ça.
La conférence.
Et lui-même je pense que
il a lâché
complètement. Après quand t'es utilisé que pour les matchs en bois au bout d'un moment quand t'es du statut d'Nkunku ça doit faire mal.
J'ai hâte de voir où il va aller.
Qui marquait à chaque fois.
Ouais,
peut-être du côté allemand.
Ça parle de Bayern, ça parle de United qui le voudrait aussi. C'est que des gros clubs apparemment.
Par contre, je lui conseille pas United.
Ah non, faut pas qu'il aille United.
Aucun joueur, tu lui conseilles United.
D'accord, mais aujourd'hui, quel joueur ? Moi, je pense que ça sera un bon échange demain. Un joueur qui irait à Manchester et qui pourront s'en servir aussi, c'est Victor Osimhen.
Ah oui, ça c'est sûr.
Moi, je pense que ça pourrait les relancer. Les deux, ça pourrait avoir un bon truc. Après, si ça floppe,
je vais peut-être me faire insulter, mais moi, je suis Osimhen, je te jure que je reste en Turquie.
Non,
il était très bien payé.
Oui, il est très bien payé, mais je pense pas qu'il
a 26 ans. Voilà,
il est jeune encore.
Il a des accomplissements à faire.
Il a le temps encore.
Il serait parti en Arabie Saoudite.
Il a fait une saison à 45 buts en Turquie. Il est trop fort pour la Turquie.
Il reviendra à 32 ans en Turquie.
J'oublie qu'il a que 26 ans, c'est vrai.
Mais il a des choses encore à donner au football.
Mais après, c'est vrai qu'il a pas tort. On en a parlé ici aussi. Ils ont recruté Højlund. Ils ont recruté comment il s'appelle l'ancien de Bologne là.
Zirkzee,
c'est ça. Ouais. Et en fait, ils n'arrivent pas à faire jouer leur plante United. Donc peut-être qu'il faut un mec qui mettra tout le monde d'accord comme Osimhen. Mais c'est vrai qu'on.
Mais après, je pense que même si tu mets Osimhen, il n'y a pas de passeur. Tu vois, il n'y a que Bruno Fernandez, mais il n'y a que lui.
Amad Diallo aussi.
Amad Diallo, Kobbie Mainoo.
Amad Diallo, depuis qu'il s'était blessé,
la blessure d'Amad Diallo,
il
a fait beaucoup.
Oui, parce qu'il n'était plus là, mais c'était un joueur clé quand même. Même les Niro, il est bien revenu, parce qu'au début, c'était mauvais,
c'était
les Niro.
Il s'est blessé dès qu'il est arrivé.
Et là, il est revenu, et c'était bon.
Mais Casemiro, il faut s'en séparer à un moment donné.
Casemiro, en deuxième partie, il est revenu fort quand même.
Je pense que United, il y a 15 arrivées.
Mais après aussi, le problème, c'est que certes, il y a des arrivées, mais c'est pas forcément là où ils en ont le plus besoin.
Oui,
quand tu vois qu'ils gardent des Luke Shaw, des Maguire
et qui préfèrent faire partie Wan-Bissaka qui fait une saison très honnête à West Ham, je comprends pas non plus.
Même Onana, pour moi, faut qu'il s'en sépare aussi. Parce
ah, Onana,
je sais pas, ce gardien.
Il parle de Thibaut Martinez.
Ouais.
Thibaut.
Ouais.
Ou ça parle de Thibaut aussi au Barça.
J'ai vu, ouais.
Moi, je préférerais Joan Garcia qui est un bien meilleur gardien selon moi et bien plus prometteur aussi. Après, Thibaut Martinez, c'est un excellent gardien, faut pas mentir aussi. Mais ouais, à voir. Franchement,
je pense qu'il irait bien avec
comme tu l'as dit, tout se joue pour les deux, la Tottenham. Qu'est-ce que t'as dit ?
Vas-y, tout se joue entre Tottenham et
Tottenham United. Tottenham United, franchement, malheur au vaincu. La vérité,
malheur au vaincu.
Moi, je vois très bien Tottenham
sa pire saison de l'histoire du club.
Exactement, mais je vois très bien Tottenham sortir de sa loose pour enfoncer encore plus United. Je sais pas, je le
sens arriver. Ah oui,
mais
Tottenham gagner ce trophée en plus d'une Coupe d'Europe.
Sans Harry Kane.
Sans Harry Kane aussi, il faut le préciser. Franchement, faudrait y aller quand même.
Hein. Franchement, les J'ai deux, cette saison, c'est catastrophique.
Ah ouais, c'est effrayant.
Quand tu te dis qu'une des deux équipes va remporter la Ligue Europa, tu te dis, mais
va
quelle
la
équipe
Ligue des Champions,
et tu te repenses à tout.
T'es déçu de Bilbao, t'es déçu de Lyon.
Après, quand on voit leur budget, tu te dis que c'est normal.
Oui,
quand
oui,
on voit
juste
leur
quand
jeu,
tu vois le budget.
Dis, voilà, quand tu vois leur jeu, tu te dis que c'est pas normal.
Ouais, puis même, après, même le jeu de Tottenham jusqu'à novembre, ça allait encore. Ils avaient fait des bonnes performances. Et après, à l'approche du Boxing Day, ils ont plongé.
Avec Amad Diallo, ça au début, ça tenait tête à City. Ça faisait.
Ça,
faisait
ouais, ça, c'est, les, ça City, c'est les premiers
c'était
mois.
Plus,
ça.
C'était plus des coups. Alors
c'est
que
voilà,
Postecoglou, il avait vraiment. Tu vois, quand tu vois Porro, etc., il y avait vraiment, je trouve qu'il y avait vraiment un jeu qui se mettait en place à Tottenham et qui, à l'approche du Boxing Day, inexplicablement
chuté,
disparu
ouais,
et qui n'est jamais revenu. Et j'ai un peu de mal à comprendre où situe le mal à Tottenham. Mais j'espère pour eux qu'ils battront les titres quand
la
même.
La chute c'est... de Son aussi.
Ouais,
après, il était blessé aussi.
Après, aussi, il y avait un défenseur qui jouait souvent, je crois. C'était
Van de Ven.
Mickey ouais, Van de Ven, ouais.
Van Romero aussi,
sa blessure,
blessé.
Elle a fait du mal.
C'est un bon
Vicario aussi, il était blessé.
Ah, c'est vrai. Ouais,
Udo qui aussi.
Ils avaient beaucoup de blessés.
Donc, vraiment, ça a été dur.
Non, ils ont eu beaucoup de blessés aussi. Il n'a jamais eu le temps vraiment de faire marcher un 11 fixe, le faire travailler. Ça aussi, ça compte énormément.
Mais c'est pour ça que j'ai vu plus de choses dans le jeu à Tottenham qu'à United et je me dis en fait entre ce duel de losers et ben je vois bien les Londoniens l'emporter.
Voilà. Après l'avantage de United pour la saison prochaine c'est qu'ils ont un coach, un vrai bon coach finalement. Et je pense que l'été ça va leur faire aussi le plus grand bien parce qu'ils vont pouvoir bien construire l'effectif. Parce qu'Amorim il arrive en pompier de service, et encore même pas en pompier de service. En fait il a raté son timing pour moi Amorim. En plus quand tu vois que le Sporting ils sont champions du Portugal, ça s'est joué sur la toute fin en plus.
Mais quand il est parti, ils ont eu un trou.
Ils ont eu un trou. Ouais,
déjà en Ligue des Champions, ils ont eu des grosses difficultés dès qu'il est parti.
Ouais.
Et même Guillaume Kéres, on l'a vu, c'était plus le même.
Mais heureusement qu'il était là finalement.
Là, il est revenu, triplé à l'appel là.
Exactement, parce que dès qu'il était parti, j'ai l'impression que Guillaume Kéres, c'était plus le même joueur.
Mais du coup, Amorim, il sera là pour. Je pense qu'on peut lui faire confiance à Amorim. Si on lui donne un peu de temps, il va finir par faire un bon fond de jeu, je pense.
Je suis d'accord, mais je pensais la même chose pour Erik Ten Hag, tu vois, à son arrivée.
L'Angleterre, c'est compliqué. L'Angleterre,
ouais, mais tu vois,
quand après, Eric Tenag, je pense qu'on lui a jamais vraiment laissé.
Il nous restait l'Ajax 2019, etc.
Mais Eric Tenag, on lui a jamais vraiment laissé les clés.
Mais est-ce qu'on lui laissera les clés de la même façon à Morim?
On verra. Bah,
après, c'est juste que quand il est arrivé, il a posé ses conditions à Morim.
Oui, bien sûr, et c'est plus les mêmes dirigeants non plus. Donc je pense qu'il y aura plein de changements, mais je trouve que ça reste quand même un des projets les plus incertains en Europe à l'heure actuelle.
Ça, c'est sûr.
Mais s'il arrive quand même à Morim, déjà avec, il aura déjà du crédit. Là, s'il gagne la Ligue Europa, il a déjà ce crédit.
C'est vrai.
Ouais.
Parce qu'on sait qu'ils seront qualifiés en Ligue des Champions.
Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Et dans n'importe quelle situation, ils n'auraient jamais pu se qualifier en Ligue des Champions avec le championnat cette saison, en tout cas. Et on va basculer avec la FA Cup. Bambouli, qu'est-ce que t'en as pensé? Manchester City, saison blanche, qui perdent face à Crystal Palace. Crystal Palace, leur premier titre. Moi, je voyais Nottingham Forest aller au bout, mais non. Finalement, ça a été Crystal Palace, mais ça n'a pas été Manchester City, non. Jason, comme tu l'annonçais. Hein. Donc, Bambouli, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de tout ça? Avec Marmoush qui loupe aussi un pénalty décisif. Hein. Marmoush qui n'allait pas bien déjà et qui tire aussi ce pénalty devant Haaland. On ne comprend pas trop.
Ça, je n'ai pas compris vraiment pourquoi Haaland n'a pas tiré le pénalty. Marmoush le prend, il le rate. Et vraiment, moi, je pensais que City, ils allaient s'imposer. C'était tout ce qui leur restait à jouer, en vrai, après cette saison catastrophique. Bon, après, il y a la Coupe du Monde des clubs qui est considérée comme la saison 2024-2025. Mais bon, ça aussi, ça sera difficile. Après, vraiment, perdre contre Crystal Palace comme ça, vraiment, je ne l'aurais pas cru. Et félicitations à Crystal Palace, hein, qui a vraiment une belle équipe. Eze, Sarr,
ouais.
Sarr aussi qui est bon,
ouais,
Mateta aussi qui est bien revenu.
En fait, les joueurs qui ont quitté Marseille et qui repartent en PL, t'as l'impression...
Sarr, c'est parce qu'il n'a pas tout à fait le même rôle. Quand il s'agit d'aller marquer, il est toujours aussi maladroit. Mais en fait,
Il marque quand même, il a marqué quand même.
Il a marqué avant le début,
c'est vrai. Des passes D, il va apporter ce truc. En tout cas, tu vois
de l'énergie.
Voilà, il sait où sont les cages. Voilà. Contrairement à ce qu'il faisait à Marseille.
Excuse-moi, aussi pour souligner les performances de Munoz. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le latéral droit de Crystal Palace qui devrait peut-être signer à Liverpool. Il est très bon, vraiment.
Il a fait une très grosse finale.
Il a marqué, mais bon, ça a été refusé. Mais même en Première Ligue, il fait des très bons matchs.
Ok, merci Bambouli. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Alexandre?
Alors, pour être honnête, non plus, je n'ai pas regardé la finale de la FA Cup. Mais c'est la première fois depuis 31 ans, je crois que c'est ça, Crystal Palace qui remporte un trophée.
Oui, et depuis 2016-2017, Manchester City n'avait pas fait de saison blanche.
Et justement, tu fais une passe D, juste pour de manière plus globale. Franchement, j'ai pas compris à titre personnel la prolongation de Guardiola direct après l'élimination contre, c'était le Real, oui c'est ça, contre le Real, direct après ou quelques semaines après, alors qu'en championnat c'était à la peine aussi.
Je pense qu'ils l'ont juste leur montré.
Je trouve ça surprenant de sa part, parce que au Barça il est resté quoi 4 ans, il a tout gagné, et quand il sentait qu'il arrivait un petit peu en fin de cycle et tout, il est parti. Bayern, pareil, il a révolutionné.
Mais il a pas tout gagné.
Le foot allemand, il a pas réussi à gagner la LDC.
3 demi-finales.
Mais Dieu sait qu'ils ont très très bien joué.
3 CR7, on peut dire.
Ouais, l'arbitre aussi était un peu dans le coup.
3 Marcignac, oui, mais bon, tranquille.
Des deux côtés, Mamboli. Tu sais très bien qu'on a regardé ça en plus en profondeur. Des deux côtés, c'était très discutable.
Enfin, en tout cas, il a su partir au bon moment. Et là, City, je trouve qu'il pousse un peu le bouchon loin. Et j'ai l'impression aussi que, après encore une fois, il faudra voir le mercato, etc. Mais j'ai l'impression que son discours, des fois, il arrive à bout de souffle, en fait, et que les joueurs, il est brillant.
Après, je pense que c'est les joueurs. Faut qu'ils renouvellent les joueurs à City.
Après, c'est vrai qu'ils ont leur choix, effectif, il est effrayant. L'effectif, il est effrayant. Moi,
ouais, l'effectif, il commence à être ici, compliqué.
Mais les qui a fait toute l'année à latéral gauche, au bout d'un moment, il faut qu'il se rende compte que c'est pas son poste. Combien de fois il va être en difficulté? Non, Guardiola, arrière gauche. Il est un central, Guardiola.
Mais même Mathieu Nunes, qui l'a repositionné et qui l'a dit, Mathieu Nunes.
Il est pas assez bon pour jouer.
Il est pas assez intelligent. Moi, en fait, j'ai ce truc-là avec Pep Guardiola où.
Bah c'est un
voilà,
catalan, c'est un
pour
catalan.
Moi, comment ?
C'est un catalan, ils sont comme ça.
Oui, mais dans son ensemble, franchement, tu vois, par exemple, même Kevin De Bruyne, qui est une légende de Manchester City, quand même, et qui l'a beaucoup aidé à gagner ses titres.
Ah là, je suis pas d'accord avec toi sur ce que tu vas dire.
Vas-y, laisse finir.
Et qui l'a beaucoup et qui l'a beaucoup aidé à gagner ses titres, et qui dit en conférence de presse, moi et le club, nous voulons plus garder Kevin De Bruyne, du coup on l'a éjecté. Or que Kevin De Bruyne juste avant, il dit on s'est mis d'accord avec le club, c'est ce qu'il dit.
Oui.
Quand Pep part derrière, il dit moi et le club, on le voulait plus, du coup on
dans
on
la
l'a
forme
dit.
C'est pas bon, mais
c'est
dans
pas
le
joli
show, Kevin De Bruyne,
c'est pas joli,
part dans tous les
non,
cas,
il y a pas de souci, il y a aucun souci à ce niveau-là, mais un joueur qui te donne autant, comment tu peux le remercier comme
de cette
ça
manière.
De cette manière, en fait moi c'est j'ai ce problème là où il a tendance à trop vivre pour les caméras, à trop donner le premier en pâture, à donner des joueurs en pâture comme ça aux médias. Moi c'est ce côté humain qui me dérange. Quand t'as un entraîneur, pour moi tu dois couvrir aussi tes joueurs, c'est tout ça être entraîneur, c'est pas juste avoir des tactiques de génie et venir les positionner, faites ci faites ça, et devant les caméras tu célèbres les buts comme un supporter.
Mais c'est la vision du groupe quoi.
Mais c'est ça, même après le problème de certains coachs, c'est une fois que tu sais que ça va plus être ton joueur, il lâche tout.
Ouais, mais c'est compliqué. Je sais pas.
Peut-être que depuis des années, il y a des contentions entre eux et que nous, on le sait pas.
Mais
pas beau de l'exposer, en tout cas.
Oui, effectivement. Mais après, le pro de ça, c'était Mourinho.
Non, mais Mourinho.
Mourinho qui avait totalement changé. Qui,
Mourinho,
au contraire, à Chelsea, premier passage à Chelsea, il prenait toute la pression sur lui. Il faisait des cercles pas possibles. Il parlait jamais de ses joueurs.
On
et qui est devenu au Real un mec qui, on a vu avec Benzema, etc. Avec Pogba plus tard, etc. Il s'est totalement déjugé. Mourinho, il y a eu un switch absolument fou après l'Inter Milan sur ça, parce qu'avant il parlait jamais de ses joueurs et surtout pas en mal.
Et surtout le Real aussi, moi je pense à cette image là où il dit je viendrai 10 minutes avant à Santiago, et si vous voulez me siffler, sifflez moi, c'est à moi que vous devez siffler et pas les joueurs. Les joueurs vous devez les supporter, et il vient tout seul et t'entends tout le stade le siffler. Il est là, il assume, il les regarde, il assume.
Il s'est fait traumatiser par Guardiola après ça.
Exactement.
Franchement, souvenez-vous des conférences de presse de Mourinho à l'après de Chelsea, ou surtout Manchester United aussi, où il arrive, il dit c'est pas de ma faute, c'est de la faute des joueurs, comme ça. Franchement, dire des trucs comme ça,
United, c'était la caricature. Ces joueurs, ils les ont descendus comme
ça. Oui. Mais en plus, et il disait après, le truc le plus compliqué que j'ai réussi à faire de ma carrière, c'est de amener Manchester United deuxième de PL.
Il a gagné l'Europa League, il a dit ça.
Ouais, aussi,
gagné un strike.
Parce qu'il savait que le club, il était.
Mais il savait, mais parce qu'il savait. Et la preuve en est, il est parti, regarde, la descente aux enfers.
Oui, bon, après, il est parti. Regarde là maintenant, il était à la Roma et au final
il gagne un titre avec la Roma, un titre en Europe.
C'est Ranieri là qui a repris la Roma.
Oui, mais il gagne un titre en Europe avec la Roma.
Oui, mais ça s'est encore mal terminé. En fait, ça se finit tout
le seul titre de la Roma depuis je sais pas combien de temps.
Non, mais on parle de trucs. Il fait quand même des choses quoi. Quand Mourinho va quelque part, il fait quand même des choses. Non, tu peux pas.
Maintenant, il fait des choses à bas étage.
Oui. En Turquie, c'est sûr que de toute façon, tu peux pas.
Même à la Roma, c'était Europa League.
Mais c'est déjà ça.
Oui, mais je dis, c'est plus ça, le grade de Ligue des Champions du Mourinho qu'on a connu.
Mais cette équipe de l'AS Rome n'a même pas le moyen d'aller en Champions.
Non, mais ça marche 6 mois, 1 an, Mourinho, et après, généralement, ça marche plus, en fait.
Depuis des années, c'est ça.
Ouais.
Et pour revenir sur City aussi, je voulais dire, c'est compliqué d'avoir un City performant quand t'as des ailiers comme Savinho et Doku qui n'arrivent même pas à marquer un but.
Merci.
Ah mais qui font plus de différence dans le jeu à part, notamment sur la finale, à part de coups, qui crée du danger.
Non, je parle par exemple dans la saison, même si moi je te prends la saison carrément. C'est, t'as des ailiers qui créent du danger, mais du danger pour faire quoi?
Mais oui, Doku n'est pas là, tu mets
parce
Kounia,
que
tu
d'accord, il agite, il peut agiter la surface autant qu'il veut, faire mais des tremblements de terre dans la surface, mais il n'y a rien.
Pour moi,
il n'y a pas de passe, il n'y a pas de but.
Je comprends, mais pour moi, s'ils reprennent un joueur style De Bruyne qui fait le travail de, comment dire, de mener le jeu et en les mettant dans des situations qui sont favorables pour eux avec un Haaland retrouvé ou un Marmouche, je suis sûr que et Savinho et Doku, c'est des joueurs sur lesquels il saura s'appuyer de Guardiola. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui me font douter à City. Et pour le coup, ni Savinho, ni Doku, c'est le cas. Pour moi, c'est des joueurs qu'il faut garder. Et,
oui, il faut les garder. Mais c'est
leur capacité à déséquilibrer les équipes adverses.
Il y a mais c'est pas assez. Parce que regarde, ce qui faisait la force aussi du City d'avant, c'était que Mahrez marquait beaucoup et passait beaucoup.
Aussi, oui.
Mais Mahrez, il a mis 2 ans en titulaire. Bernardo Silva, quand il arrive aussi, il y avait une concurrence, il y avait des joueurs installés. Là, on a l'impression que cette année, il n'y a plus d'équipe qui est installée. Il n'y a pas de collectif qui tourne comme on avait l'habitude avec Guardiola. Et pour moi, c'est ça qu'il va falloir recréer. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir arriver pour remettre un peu de fraîcheur dans cet effectif.
Merci Lucas. On va s'arrêter là. On va faire une petite virgule avant de revenir avec la Bundesliga. Dortmund in extremis, qui valide leur ticket en Ligue des Champions. Le RB Leipzig s'incline 3-2 face à Stuttgart et ne joueront pas l'Europe. On y revient tout de suite. Très rapidement, les amis, on est en retard sur le programme. On va parler de Dortmund qui valide leur ticket en Ligue des Champions. C'est incroyable. Il y a quelques journaux, on aurait dit c'est impossible. Ils valident quand même ce fameux ticket. RB Leipzig qui dégringole tout simplement. Il commence la saison canon et il la finissent tout simplement avec zéro qualification en Europe. Et de toute façon, c'est un peu à l'image, on parlait un peu de Nice, mais moi c'est un peu RB Leipzig. On très mal joué aussi en Ligue des Champions dernièrement. Ils ont fini dans les derniers, je crois qu'ils ont pris que 3 points
pourtant
ils ont joué contre des équipes qui pouvaient, non, mais de ce côté là ça marchait en Bundesliga, c'est pour ça qu'ils le viraient pas, ça marchait en Bundesliga, mais après c'est la dégringolade. Et là même le dernier match, je comprends pas, avec ce nouveau coach, je comprends pas pourquoi il n'a pas fait jouer Cesco ni Openda. Je sais pas, il a mis les deux sur le banc, je ne comprends pas. Et finalement, ils menaient 2-1 et ils ont perdu très rapidement. S'il vous plaît, on va prendre vos analyses sur toute cette journée aussi, et un petit mot pour Thomas Müller et Leverkusen qui termine aussi sur un match nul pour la dernière de Xabi Alonso et de sûrement Florian Wirtz. Je vais prendre Jason.
Moi, le point que je voulais préciser, c'était la remontada de Dortmund et la forme de Guirassy ces dernières semaines, c'est qu'il a su tirer son équipe vers le haut et scorer à tous les matchs avec une équipe de Dortmund méconnaissable qui était depuis le début de saison, parce qu'on se disait mais Dortmund ne va pas jouer de Coupe d'Europe cette année. Et cette remontada, franchement, j'avais l'impression que Dortmund, peu importe l'adversaire qu'ils allaient affronter, ils n'allaient pas les gagner. Donc je tenais à féliciter ça. Et après Leverkusen, je pense qu'ils étaient en roue libre. Ça y est, tous les joueurs... on a acté la fin, on part déjà de Frimpong à Liverpool, plusieurs joueurs qui sont sur le départ. Une fois que déjà tu entends que ton coach est sur le départ, c'est là où déjà toi-même tu te poses la question de ce que tu vas faire. Donc eux, la saison elle était déjà terminée. Le Bayern c'était un match festival. On connaît le Bayern commencer, là, ils étaient déjà champions. C'était un match à animation. Thomas Müller, légende du Bayern, et pour certains légende du foot, pour d'autres non, on ne sait pas. Chacun aura son avis. Et en tout cas, je tiens à le féliciter pour toute la carrière qu'il a eue, parce que c'est un joueur que moi j'ai très apprécié et que j'aime beaucoup. Et je ne pense pas qu'on en verra beaucoup dans ce style-là dans le monde du foot d'aujourd'hui.
Merci Jason. Lucas ?
Moi, je retiens aussi le retour de Dortmund. Je pense qu'avec c'est dommage qu'avec Nuri Sahin, ça n'avait pas marché. On aime bien quand les anciens joueurs reprennent une équipe, ça fait maison et tout. Mais là, du coup, on n'a pu que constater l'échec. Moi, je trouve quand même que la deuxième place de Leverkusen, c'est quand même une très bonne chose. Je trouve que c'est très compliqué de confirmer après avoir fait une année comme ils ont fait l'an dernier. Ils ont gardé l'ossature, etc. Mais il faut garder... Il y a Ligue des Champions en plus, donc il y a beaucoup plus de pression. Ce n'est pas du tout la même saison qu'ils ont vécue par rapport à 23-24. Donc vraiment, je trouve que Leverkusen, réussir quand même à garder la deuxième place, ça reste une performance. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Mikael Olysee, qui fait sa première saison au Bayern, qui nous a... en tout cas, moi, qui m'a ébloui. Je trouve que dans l'intelligence du jeu, sa patte gauche aussi, dans la créativité, il apporte vraiment un truc. Et si la Moussiala et Wirtz avec lui l'an prochain, je vais regarder beaucoup de matchs du Bayern.
Voilà. Merci Lucas. Alexandre ?
Ouais, non, c'est vrai que si la Moussiala et Wirtz, ça va être vraiment très 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 sale.
Un peu comme l'Allemagne. Avec l'Allemagne, ça joue bien.
Ouais. Après, Qu'est-ce que je voulais dire? Non, le Bayern, ils ont fait une saison plutôt que... Oui, c'était sur Michael Issé, voilà, que je voulais rebondir. C'est que, bah, franchement, je suis d'accord avec toi. En fait, il fait une très bonne saison. Et en plus, bah, au départ, il part pas forcément titulaire. Parce que il y avait bah, Gnabry, Sané, et puis il y avait...
Coman,
voilà, exactement. Il part pas titulaire et il a su s'imposer, en fait. Il s'est vraiment imposé et maintenant, il est limite titulaire indiscutable sur le côté. Et c'est là où je pense qu'il va falloir qu'il y ait des départs pour le Bayern et des recrues, justement. S'il y a Wirtz qui vient, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait peut-être recruter un profil type Coman ou Sané, parce que je pense qu'il faut qu'il y en ait.
Sané, de toute façon, il est sur le départ,
ouais,
je crois.
Sané,
c'est les deux, hein, parce qu'on voit que sur Coman la fin de saison, le troisième, là, Gnabry, fait quand même une grosse fin de saison. Il y a quand même des matchs où il a fait des trucs assez fous. Je pense qu'il va rester. C'est les deux autres qui sont clairement candidats au départ.
Ouais, je pense qu'il faudrait qu'ils partent. Et même, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une recrue aussi au milieu de terrain, parce que Goretzka, Kimmich, bon, ça commence à être vieillissant. Et Pavlovic, c'est
léger.
C'est un petit peu léger en tant que titulaire au Bayern Munich. Et pareil, Neuer aussi, ça fait deux saisons. Pour moi, il fait des saisons un peu en dents de scie, même si ça reste Neuer.
Il se blesse souvent.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'il se blesse souvent. Et
là, il meurt arrière droit, ça pourra pas durer. Si Sacha Boy est pas au niveau, il faudra l'attaquer.
Excusez-moi,
aussi.
Les gars, mais très rapidement, on a encore un sujet à traiter. Et je pense qu'on n'aura même pas le temps pour le quiz. Du coup, il faut qu'on accélère un peu.
Ok, bah, c'est tout ce que j'avais à dire, à part que voilà, faudrait qu'il y ait du mouvement au Bayern cet été.
Merci, Alexandre. Bambori ?
Pour le Bayern, félicitations à eux. Vraiment, ils sont bien revenus. Félicitations à Compagny, à Olis, qui a fait une très grosse saison. Comparé aux autres ailiers, c'est quand Olis arrive, c'est très, très bien. Et aussi, merci à Müller pour tout ce qu'il a fait pour le club. Et félicitations aussi à Dortmund, qui sont bien revenus.
Merci, Bambori. On va rappeler le classement, 82 points pour le Bayern avec 99 buts. Hein. On pense à ce petit piqué de Leroy Sané, hein, qui aurait pu inscrire le centième but, mais qui n'a... Voilà. Et Bayer Leverkusen, 69 points, deuxième. Francfort, troisième avec 60 points. Hein. Et Tiquité aussi qui fait une belle saison et qui valide aussi son passage en Ligue des Champions avec l'Eintracht Francfort. Dortmund qui valide aussi quatrième avec 57 points. Fribourg, qui n'ont pas réussi à se débrouiller barrassés de Leverkusen et qui sont 5e avec 55 points. Mayence, 52 points, 6e. RB Leipzig, qui ne joueront rien et qui sont 7e. Et pour le bas de tableau, Bochum sont relégués. Holstein Kiel sont relégués aussi. Et Edenem sont aussi relégués de ce côté. Enfin non, Edenem vont jouer les barrages pour rester en Bundesliga ou pas. Voilà, on va faire une petite virgule, une courte virgule, et on va revenir avec la Serie A, hein, le mano à mano entre Naples et l'Inter. On y revient de suite. Mano à mano entre Naples et l'Inter, hein. C'est là-bas, c'est tout simplement ce qu'on entend et c'est ce qu'on voit en Serie A. C'est très très chaud et tout va jouer jusqu'à la dernière seconde, hein, dans le temps additionnel ou pas. Ils nous ont déjà offert une 37e journée multiplex de folie. AC Milan qui ne vont rien jouer, voilà, AC Milan contre Cessao, ça s'arrête là, hein, pour l'instant en tout cas cette saison. Ils ne joueront aucune compétition européenne avec la défaite face à l'AS Roma, 3-1. Quelles sont vos analyses sur ces matchs très rapidement pour voir si on réussit à terminer un peu avant pour se faire un petit quiz.
Je vais commencer. Je pense que l'Inter, c'est sa beauté. Vu la profondeur de leur effectif, ça veut dire être champion. Pour moi, il n'y avait même pas de débat possible en début de saison. Certes, Conte avec Lukaku, ça marche. On voit quand même que sur l'effectif, avec la perte de Kvara en plus en janvier, c'était quand même qualitativement, c'était nettement moins fort. Donc je trouve que même s'ils ont dû jouer beaucoup de matchs, Ligue des Champions, etc., je trouve que l'Inter, c'est sa beauté. Au contraire, bravo à Naples qui n'a jamais rien lâché. Bravo aussi à Ranieri qui réussit brillamment son retour à l'AS Roma, à l'Atalanta qui a conservé sa troisième place sans absolument aucun suspense, hein, parce que c'est la quatrième qui sera convoitée par la Juve et par d'autres clubs.
Par l'AS Roma et la Lazio.
Voilà, merci. Mais du coup, la troisième, elle est sécurisée par l'Atalanta. Donc vraiment, gros travail à eux. Et ouais, déception, l'AC Milan, avec une encore plus grosse déception qui va être leur ancien coach Fonseca, qui quand même s'est planté en arrivant à Milan et qui pour moi est en partie responsable des déboires de l'Olympique Lyonnais sur la fin de saison. J'en parle notamment le fait de ne pas mettre Matic sur les gros matchs United puis Saint-Etienne, une défaite qui a été cruciale dans la fin de Lyon. Donc voilà, vraiment Fonseca très déçu de lui, et du coup il n'y a pas que les joueurs qui doivent se remettre en question, j'espère qu'il le fera aussi, mais sinon ouais, hâte de la 38e journée l'an prochain et de voir ce que ça va donner.
Merci Alexandre.
Bon, très rapidement, j'ai hâte de voir le mano à mano que ça va donner. Après, je trouve que Naples a fait une saison plutôt cohérente dans l'ensemble, même si dans le jeu sur la fin c'est un peu moins bien. Mais honnêtement, Conte, il a trouvé un vrai équilibre de l'effectif et des recrues intelligentes. Après, pour Milan, c'est vrai que c'est une saison vraiment compliquée. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des départs parce que, pareil, il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire dans ce club, à commencer par Théo Hernandez. Franchement. Il les a un peu sabotés à un moment donné de la saison, mais même dans l'investissement, je trouve que c'est pas bon. Donc voilà.
Merci Alexandre Bombori.
Tous les yeux seront rivés sur les matchs de l'Inter et de Naples. Après, vraiment, Naples, malgré le départ de Kvaratskhelia, ils ont fait quand même une très grosse saison. Donc ça ne sera pas démérité s'ils prennent le Scudetto. Et là, je pense qu'ils vont prendre le Scudetto quand même.
Toi, tu les vois prendre.
Et après la dernière journée, Inter, je pense qu'ils ont grillé leur cartouche. Je pense que c'est fini pour eux.
Malheureusement pour Jason, en tout cas, hein, qui est du même avis, je suppose.
Sujet, je pense qu'il n'y a plus grand chose à ajouter. Tout le monde a tout dit. De toute façon, on attend comme le mano à mano et on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que Naples pourra se planter et que l'Inter pourra aller la chercher.
En tout cas, Naples devront obligatoirement s'imposer s'ils veulent gagner la Scudetto et l'Inter devront s'imposer quoi qu'il arrive aussi de leur côté en espérant un faux pas de Naples. On aura un mano à mano jusqu'à la dernière seconde. Voilà pour la Serie A. En bas de tableau aussi, ça va jouer entre Venise qui ne sont pas encore relégables mais qui n'ont pas leur destin entre les mains, mais Venise aussi qui peuvent croire au maintien hein, et Cagliari qui sont imposés 3-0 et qui ont assuré le maintien et qui auront à Naples d'ailleurs pour cette dernière journée de Serie A. Voilà, c'était tout pour moi. On revient de suite pour le quiz. C'est parti pour le quiz. Quel est le joueur le plus âgé à avoir marqué en Coupe du Monde ?
Close.
Non.
Non, c'est... Oh, je l'avais en plus, hein, je le savais. Mais je sais plus.
Je répète la question. Quel est le joueur le plus vieux ayant marqué en Coupe du Monde ?
T'as pas un indice ?
Mais si.
Un indice ?
Cristiano non. Ronaldo ?
Non. Un indice ? Il y a une musique qui a été faite sur ce joueur.
Oh là là.
Et non, quand je vous dis poteau de corner ?
Eto ? Non, Roger Milla.
Roger Milla.
Oui, 40 ans.
42 ans, Alexandre. Ah ouais. Ça fait un point pour Alexandre. Oui, c'était bien Roger Milla.
Jamais eu.
Non, pareil.
Deuxième, qui a inscrit le but le plus lointain de la Ligue 1?
Ah, c'est toi. C'est le joueur de Evian Tonon-Gaillard, non?
Clifa.
Non.
En comptant les années passées?
Oui.
Casri.
Kazri, Wabi Kazri, c'est bien ça, 68 mètres. Wow. Un point pour Jason. Troisième question, quel joueur a gagné une Coupe du Monde sans jouer un match ?
Adil Rami.
Adil Rami, un point pour Lucas. Je pense que tout le monde l'avait à ce moment-là, mais ils sont pressés. Quatrième question qui peut être décisif, hein. Quel est le joueur le plus jeune à avoir remporté le Ballon d'Or ?
Messi.
Ronaldo
R9.
C'est pas Michael Owen ?
Non, okay. C'est Ronaldo R9 et ça fait petite victoire.
Je pensais que c'était Owen et
ouais, tu pensais la même chose évidemment. Okay.
Petite victoire pour Jason. Voilà, c'était tout pour nous en tout cas et on va tout simplement vous souhaiter une belle soirée, une bonne soirée à vous. Merci à Léo à la technique, merci à Alexandre, merci à Lucas, merci à Bambori et merci à Jason. Et merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices. Et on se dit à la semaine prochaine avec du football, toujours du football, encore du football. On vous fait des bisous. Yeah.